Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer notre séance du conseil municipal. J'ai reçu quelques pouvoirs. Youri Philippe arrivera en retard et sera représenté jusqu'à son arrivée par Astrid Tussaud. Je représenterai en ce qui me concerne Benoît Moitier. Anne-Marie Legras, représentée par Magali Carbonel. Christian Demangin, qui arrivera en retard également, ainsi que Jacques Fromm, seront respectivement représentés par Pierre Marandon et Abida Sharif. Rémi Grand par Marie-Claire Bilbord, Nicole Lesage par Pascal Barniquet, Aline Triolet par Christine Mazzi, William Richard par Jean-Paul Angers, Sébastien Durançois par Chantal Clément. Et je vous propose comme secrétaire de séance la plus jeune de l'Assemblée, à savoir Astrid. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je voudrais saluer les jeunes filles et jeunes garçons de la réussite éducative qui assistent pour la première fois à un conseil municipal. Je leur souhaite une bonne séance, mais c'est un instant et je pense qu'ils ne vont pas rester toute la séance. Ils sont venus découvrir, ils travaillent sur la citoyenneté, sur le rôle du maire, le rôle du conseil municipal. Donc ils tenaient absolument, et c'est une bonne chose, à assister à un morceau de conseil municipal. Merci à vous. Alors. Alors, le premier rapport concerne le rapport d'orientation budgétaire. Mais avant d'entrer dans le débat d'orientation budgétaire, je vous rappelle le rapport annuel 2019 sur l'égalité homme-femme qui vous a été adressé avec la convocation pour ce conseil. Celui-ci souligne en particulier la forte féminisation de notre direction générale et des postes de responsables de services de la ville. Si vous souhaitez faire des remarques ou poser des questions à ce propos, je vous invite à exprimer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire qui va s'ouvrir, qui porte également sur le personnel. Un peu plus d'un mois de la présentation du budget primitif 2020, nous allons maintenant donc tenir notre traditionnel débat d'orientation budgétaire qui permet, vous en avez l'habitude maintenant, d'examiner le contexte dans lequel ce budget est élaboré ainsi que ses principales caractéristiques financières. Les indicateurs économiques récents rappelés dans la note dont vous avez été destinataire montrent que sur le front de la croissance et en dépit de nombreuses incertitudes qui affectent la situation internationale, la France connaît une situation meilleure que celle de la zone euro et table sur une croissance, certes modeste, de 1,3% l'an prochain. Pour autant, le climat morose qui caractérise notre pays depuis de nombreuses années n'a pas disparu, comme par enchantement. Je vous renvoie évidemment vers le débat sur la réforme de notre système de retraite, dont on peut le souhaiter qu'il se termine autour d'une table de négociation, ne serait-ce que pour libérer notre pays, je pense aux acteurs de la restauration, du commerce ou de l'hôtellerie, des blocages qu'ils pénalisent actuellement. S'agissant des éléments qu'il nous faut prendre en considération pour ce budget 2020, j'évoquerai principalement, évidemment, le projet de loi de finances. Il confirme la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des assujettis, les 20% restants voyant leur contribution commencer à diminuer en 2021 pour disparaître en 2023. En retour, les collectivités sont dégrévées par l'État sur la base du taux de taxe d'habitation de 2017, ce qui n'a pas d'incidence pour nous, dans la mesure où les taux sont stables depuis de nombreuses années à Épernay. Cette compensation de la taxe d'habitation a un impact direct sur les transferts financiers de l'État aux collectivités, qui, de ce fait, augmente mécaniquement. Mais par ailleurs, les concours financiers de l'État aux collectivités, c'est-à-dire ces aides directes, restent, eux, globalement stables à hauteur de 49,1 milliards d'euros au niveau national. Au niveau local, nous enregistrons une baisse de la DGF qui s'établira à 2,63 millions d'euros, soit un recul de 175 000 euros, moins brutal, il est vrai, que par le passé. Cette baisse est le fruit d'un écrêtement qui permet à l'État d'augmenter son enveloppe nationale de DSU. Mais à Épernay, cette progression de la DSU n'est que de 40 000 euros. S'y ajoute également une baisse de 29 000 euros de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. En clair, l'État nous redonne un peu de ce qu'il nous retire. Aussi, au bout du compte, nos dotations vont encore diminuer de 164 000 euros en 2020. Je rappelle que sur la période 2014-2019, nous avons déjà perdu 10,5 millions d'euros de ressources en cumulé. L'an prochain, notre contribution au FPIC restera au niveau de 2019, soit un montant de 1,1 million. Je me dois toutefois de rappeler que de 2012, date de son instauration, à 2019, la collectivité s'est déjà vue privée de 6,6 millions d'euros. Nos recettes réelles de fonctionnement restent globalement stables à 42,6 millions d'euros. Ce montant intègre la revalorisation de 0,9% des bases fiscales validées dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances en application de la règle qui l'indexe maintenant à l'inflation constatée. S'agissant plus particulièrement de nos recettes fiscales, le montant attendu provenant des droits de mutation ou de la taxe de séjour restera au même niveau élevé qu'en 2019. Celui-ci traduit le dynamisme de l'immobilier local et la progression de l'activité touristique à Épernay. Quant au montant global de nos recettes fiscales, il sera en légère baisse et représentera la somme de 29,38 millions d'euros. Cette baisse d'ordre technique provient du fait que les recettes du forfait post-stationnement, qui étaient autrefois comptabilisées dans les recettes fiscales, sont maintenant comptabilisées au chapitre des produits de services, d'où cette explication. En matière de fiscalité, nous maintiendrons le cap auquel nous nous sommes astreints volontairement. Ainsi, en 2020 à nouveau, les taux communaux seront stables, et cela pour la 15e année consécutive, avec même, je le rappelle, deux baisses en 2007 et 2008. Dans le même temps, nous maintiendrons nos abattements fiscaux favorables aux familles, puisque nettement supérieurs aux abattements obligatoires. S'agissant toujours de notre fonctionnement, nous poursuivrons les efforts de la collectivité pour assurer la maîtrise de ces dépenses. Leur progression sera ainsi limitée à 1%, soit strictement le niveau de la hausse des prix attendue en 2020. Cette évolution découle de l'ouverture du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Elle a été rendue possible en grande partie grâce aux économies réalisées par la ville en matière de fonctionnement lors de chaque exercice budgétaire. Une ville qui maîtrise ses dépenses de fonctionnement est une ville qui trouve des moyens supplémentaires pour investir sans s'endetter. Nos efforts maintenus en 2020 vont ainsi nous permettre de disposer d'un important autofinancement puisqu'il sera de l'ordre de 4,9 millions. Pour ce qui concerne la dette, l'encours n'augmentera pas en 2020 et restera d'un montant de 37 millions d'euros. Comme aujourd'hui, il demeurera composé d'emprunts parfaitement sûrs, classés 1A et 1B, 1A à 96% pour le solde, 1B. Je fais évidemment référence à la charte Gisler. Les conditions toujours favorables offertes aujourd'hui en matière de prêts permettent de limiter de façon importante nos frais financiers. Ils demeurent ainsi au même niveau qu'en 2019, soit 419 600 euros. Un encours maîtrisé et un haut niveau d'autofinancement permettent que la capacité de désendettement de notre collectivité s'établisse à 7,7 années en 2020. Ce niveau reste très éloigné du plafond que le Code général des collectivités territoriales situe entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants. Cet indicateur montre clairement que la ville d'Épernay a un niveau d'endettement en parfaite adéquation avec les ressources dont elle dispose. Dernier point à souligner du budget qui vous sera présenté dans quelques semaines. Les dépenses d'équipement de la ville s'établiront à 8,5 millions en 2020 avec une part de subvention de l'ordre de 15%. La baisse que nous observons tient d'abord à la fin des travaux du musée qui avait justifié des montants exceptionnels en 2019. Elle tient également au cycle habituel d'équipement des collectivités les années d'élection. Nous avions ainsi connu la même évolution en 2014. Fin janvier, le vote du budget primitif sera l'occasion d'examiner les actions municipales tant en section d'investissement que de fonctionnement. Parmi nos investissements, les principales opérations concerneront d'abord la poursuite de notre programme de voirie avec notamment la requalification de l'avenue Gérald Marguerite et de la rue Gambetta, deux projets qui nécessitaient que les travaux de l'avenue Jean Jaurès soient achevés pour être engagés. Ensuite, l'aménagement des espaces publics des deux dernières phases du quartier Rosemont. J'évoquerai encore la poursuite de la coulée verte entre la rue Dom Pérignon et la rue de Magenta. Le déploiement des premières actions de l'opération Cœur de Ville et l'opération d'amélioration de l'habitat qui l'accompagne, actions qui seront précisées en fin de conseil lors de l'examen d'un avenant marquant le basculement en opération de revitalisation du territoire. Enfin, les investissements du budget participatif. 2020 traduira à nouveau les principes qui ont guidé l'action municipale lors de ce mandat qui s'achève, dépenses de fonctionnement maîtrisées, taux de fiscalité stable et effort d'équipement de la commune. Christine Mazzi va maintenant vous apporter des compléments d'ordre financier à mon intervention. Nous ouvrirons ensuite, comme nous le faisons chaque année, notre débat d'orientation budgétaire, lequel ne sera pas conclu par un vote, puisque la loi le veut ainsi. Christine.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, ce PowerPoint va permettre d'illustrer par le biais de schémas les propos que vous venez de nous indiquer. Donc, après un rappel du contexte général que vous venez d'évoquer, nous allons nous attacher plus particulièrement aux effets au niveau communal. Donc, en ce qui concerne l'évolution du FPIC, du fonds de péréquation, donc on voit cette évolution du montant de l'enveloppe du FPIC. On remarque toutefois qu'il est gelé, hein, on le voit bien à partir de 2017 même, qu'il est gelé. À 1 milliard d'euros depuis 2018 en global. Donc ça, c'est la prévision de la loi de programmation 2018-2022. Donc cette péréquation représente 6,5 points de fiscalité. Et donc, je vous rappelle, que le montant qui a été prélevé entre 2012 et 2018 représente 6,6 millions d'euros pour notre collectivité. Simplement pour mémoire, la baisse que l'on observe entre 2016 et 2017 est liée en fait à la fusion des deux EPCI, donc l'ex-CCEPC et CCRV, et la transformation des deux communautés de communes en communautés d'agglomération qui a fait baisser le montant de cette péréquation horizontale. En ce qui concerne l'évolution des dotations de l'État, donc ce graphique illustre l'effort qui est demandé par l'État aux collectivités au travers du redressement des comptes publics et les conséquences sur la ville d'Épernay. Donc la contribution au redressement des comptes publics a été initiée en 2014, avait pour objectif d'atteindre les 27 milliards d'euros en 2017. Donc elle est représentée par le rectangle en pointillé rouge que vous voyez, donc à partir de 2014 jusqu'en 2017. Donc le montant total de cette contribution pour notre collectivité s'élève à 5,8 millions d'euros. Entre 2012 et 2019, donc le montant de notre DGF est passé de 9,6 à 5,8 millions d'euros, hors transfert à l'agglo, qui est représenté en bleu sur le graphique. C'est donc 3,8 millions d'euros qui ont été prélevés sur la ville d'Épernay en 5 ans. Et cette diminution, bien sûr, est à ajouter au prélèvement qui a été réalisé au titre de la péréquation horizontale. Donc à savoir que ce qui est exprimé en rectangle bleu, qui est le transfert à l'agglo, cela correspond au montant des attributions de compensation, hein, puisqu'en fait c'est l'agglo qui a perçu ses recettes. Alors en ce qui concerne l'évolution de la fiscalité à pouvoir de taux, la loi de finances prévoit un coefficient de revalorisation des bases locales au niveau de l'inflation qui est connue en novembre. Donc il serait compris entre 1 et 1,2% sur le foncier et les autres valeurs locatives, autres que les résidences principales. En revanche, sur les valeurs locatives des résidences principales, la valorisation retenue serait de 0,9%. Les autres recettes fiscales que nous percevons, ce sont les droits de mutation. Donc pour 2020, ils sont estimés au même niveau que leur estimation au BP 2019, soit 780 000 euros. La taxe de séjour est estimée en augmentation pour les raisons qui vous ont été indiquées. Globalement, les recettes fiscales pour 2020 sont estimées à un peu plus de 29 millions d'euros. Alors, on va faire un petit focus sur l'analyse du poste de dépense le plus important pour notre collectivité, à savoir les ressources humaines. Donc, conformément au décret du 24 juin 2016, qui est relatif au contenu du rapport d'orientation budgétaire, figurent ici les éléments qui sont issus du dernier bilan social. Au 31 décembre 2019, l'effectif était de 499 agents en position d'activité, donc tout statut confondu. La grande majorité des effectifs est constituée à 75% par des personnels titulaires, donc en bleu sur le camembert, ce qui représente 376 agents. 6% des effectifs sont contractuels sur des postes permanents, donc CDD ou CDI, soit 31 agents. Et 19% par des personnels non permanents, c'est-à-dire des vacataires ou des saisonniers employés essentiellement au niveau des services espaces verts ou du camping. En ce qui concerne la répartition de ces postes permanents, donc le total des effectifs, c'est 407 agents qui occupent un emploi permanent. La représentation par catégorie des postes, on remarque donc au niveau du graphique en triangle, du cône, 76% des agents sont embauchés en catégorie C, 308 agents, 14% en catégorie B et 10% en catégorie A. On peut donc noter par rapport à l'histogramme qui est en bas, on remarque que 70% des titulaires sur des postes permanents appartiennent à la filière technique et administrative. La plus grosse proportion de nos agents. Un petit focus sur la prévision des retraites d'ici 2028. Donc les prévisions de retraite sur les 10 ans à venir montrent un pic en 2023 et 2025 avec des départs prévus. Par contre, ces prévisions sont bien sûr basées sur l'âge légal du départ à la retraite, mais il revient à chaque agent de faire valoir ses droits lorsqu'il le souhaite. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de demande particulière. En ce qui concerne la dette de notre collectivité, donc elle est constituée de 35 contrats. Donc vous avez sur le camembert en bas de représenter les différents partenaires auprès desquels nous avons souscrit des prêts. Donc vous voyez les principaux qui sont indiqués. Actuellement, comme ça vous est indiqué dans le propos introductif, nos emprunts sont à 69% sur du fixe et livret A et à 31% sur du variable. Donc, nous avons une dette sécurisée, hein, là aussi pour illustrer le propos de M. le maire, donc, puisque selon le classement Gisler, tous nos emprunts sont classés en 1A ou 1B, comme c'est représenté ici sur ce graphique. Donc, des dettes sûres. Une présentation du profil d'extinction de notre dette, tout budget confondu, c'est-à-dire ville, camping, parking. Notre encours de dette est à ce jour de 34,5 millions d'euros, auxquels nous devons ajouter les emprunts en cours de contractualisation d'un montant de 3 millions. Donc, nos objectifs budgétaires, donc, compte tenu des hypothèses qui ont été retenues, à savoir pas d'augmentation des taux de fiscalité, mais une revalorisation des bases, une baisse de la dotation globale de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement devraient être au même niveau que la prévision 2019. C'est ce qu'indique ici ce graphique avec une évolution de 0%. Donc notre objectif est bien sûr de maintenir une capacité de désendettement identique à celle du budget 2019 et donc d'un maintien d'un autofinancement important. Pour cela, il nous faut agir sur le montant de nos dépenses réelles de fonctionnement. La hausse des dépenses est alors limitée à 1%, et ce, dans l'objectif d'un maintien des taux à l'identique par rapport à 2019. Donc, compte tenu du fonctionnement du musée en année pleine sur l'année 2020, nous devrons faire des efforts sur les différents postes de fonctionnement. En ce qui concerne notre capacité de désendettement, donc ce ratio de capacité de désendettement est utilisé couramment par notre collectivité. Ce ratio est devenu obligatoire et déterminant dans l'analyse financière. Il mesure en fait la capacité de la ville à rembourser sa dette en année. Il est pour la ville d'Épernay de 7,7 ans. Et comme ça vous a été rappelé, il y a l'introduction d'un plafond national de référence. Donc pour les communes de plus de 10 000 habitants, il se situe, ce plafond, entre 11 et 13 années, ce qui fait que notre encours est sécurisé et notre niveau d'endettement est bien maîtrisé. Donc, concernant nos dépenses d'équipement, le volume 2020 des investissements devrait s'établir à 8,5 millions d'euros pour 2020. Donc, on voit effectivement en 2019 cette augmentation significative liée à la restauration du château Perrier. Le montant des investissements prévus est financé à encours constant de la dette et un montant de subvention estimé à 15% des dépenses d'équipement. Je vous remercie.
Merci Christine. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Qui commence? Madame Perrin.
Bonsoir. Alors, comme l'an dernier, nous ferons d'abord remarquer que le débat sur les orientations budgétaires ne peut ignorer l'environnement dans lequel nous évoluons, tant au plan national que local. Le rapport fait totalement l'impasse sur ces considérations. Après celles exprimées par le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier, la puissance de la colère, des grèves, des manifestations qui s'expriment actuellement face au projet de réforme des retraites, à la casse et à l'insuffisance des moyens accordés au fonctionnement des services publics, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et même jusqu'à la police, devrait conduire à réorienter à tous les niveaux les politiques publiques. Il faut être vraiment sourd et aveugle pour ne pas entendre et voir le ras-le-bol qui monte. Du fait que l'immense majorité de la population en a assez chaque mois d'avoir des difficultés à joindre les deux bouts, d'être dans la précarité, de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail lorsqu'elle en a un, alors qu'une infime minorité continue à se gaver de la manière totalement indécente. À tous les niveaux, il est urgent de prendre en compte la réalité, la diversité des besoins de la population au plan local, les orientations budgétaires que vous proposez pour la construction du budget primitif 2020 de la ville répondent-elles aux attentes fortes ? Absolument pas. Elles sont dans la continuité de la politique que vous menez depuis maintenant trop longtemps et qui n'ont aucunement contribué à réduire les inégalités au plan local, bien au contraire.
Merci. D'autres interventions ? Marc ?
Oui, donc quelques questions. Donc si les recettes prévues en 2020 sont stables par rapport à 2019, vous prévoyez l'augmentation des dépenses de 1% due au musée. Donc, en principe, l'autofinancement va diminuer par rapport à 2019.
Non.
Non. Il y aura des économies ailleurs.
Oui, bien sûr. On compense les charges supplémentaires par des économies, comme on le fait depuis de nombreuses années.
Oui. Donc, deuxième question. À quel montant estimez-vous le remboursement du FCTVA en 2020 par rapport aux travaux qu'il y a eu d'investissement ?
2,6 millions.
Voilà. C'est pas compris dans les subventions. Et prévoyez-vous des emprunts en 2020 ? Et si oui, pour quel montant ? Parce que là, on constate sur les tableaux qu'il y a la fin de remboursement d'emprunts pour 4 millions 190 000.
C'est la différence. On a un autofinancement de 4,7 millions, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure. On a des remboursements de TVA.
4,9 millions.
On a des remboursements de TVA. Et puis, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'emprunts cette année.
Donc, il y a plusieurs emprunts qui devraient se terminer maintenant ou qui se sont terminés en...
On est en cours constant. Donc, ça veut dire que le remboursement...
On rembourse le capital de l'emprunt et par de nouveaux emprunts. C'est ce qu'on fait quasiment tous les ans, sauf l'année dernière, où effectivement on avait, compte tenu des dépenses du musée, accepté pour le coup de nous endetter un petit peu. Mais on revient sur la norme qu'on se fixe en général, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les emprunts qu'on souscrit correspondent au remboursement du capital des emprunts de l'autre côté, ce qui fait que finalement notre endettement est assez stable.
Donc vous estimez le montant des emprunts à quel niveau pour 2020 ? Non, mais les nouveaux emprunts pour 2020, il y en aura ?
Ah, oui. Dans ce montant-là, à peu près. On aura des ajustements à faire, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les arbitrages budgétaires ne sont pas faits à ce jour, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on était un peu plus d'un mois du vote du budget, mais on sera dans cette fourchette-là, quoi. On devrait logiquement stabiliser l'encours de dette. D'autres questions ? Pas d'autres questions, Monsieur Angers ?
Oui, simplement deux remarques de forme. Je souscris évidemment au propos qu'a tenu ma collègue Hélène Perrin. Première remarque sur la gestion des ressources humaines, remarque de forme, parce que de la manière dont c'est présenté dans le rapport, je suis tombé dessus, on aurait cru la présentation d'un service de ressources humaines ou d'une direction de ressources humaines d'une entreprise du CAC 40, avec une gestion des ressources humaines qui tient compte de manière très arithmétique, très comptable. Je rappelle que nous ne sommes quand même pas une entreprise, nous sommes une collectivité. Et pour rejoindre ce que disait Hélène Perrin, il y a notamment dans nos missions qui sont inscrites sur le fronton de notre mairie, notamment la fraternité, ça c'est le développement de la solidarité sur notre territoire, sur notre périmètre. Et ça ne se compte pas de la même manière que dans une entreprise qui a une vocation à produire et qui doit rendre des comptes à des actionnaires. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention quand même à la sémantique qui est employée. La deuxième remarque que j'ai à faire, elle concerne, je dirais, l'absence de... Bon, on est sur des orientations budgétaires, j'entends, mais on a... Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du moment, et notamment avec la COP25 qui vient de se casser la figure, mais on ne sent pas de dimension développement durable vraiment portée au travers de tout ça. Alors, peut-être qu'elle l'est en filigrane sur un certain nombre de projets, et notamment sur le point du stationnement. Vous indiquiez un moment dans votre rapport d'orientation budgétaire que, compte tenu, je dirais, des nouvelles modalités, maintenant on perçoit après coup, donc ça change de ligne budgétaire, ça n'est plus une ligne fiscale, c'est une ligne de recettes différente. Et on fait du stationnement dans cette ville un élément, une force budgétaire. Et ça me choque, au plus haut point. Parce que je trouve que c'est contradictoire avec ce qu'il faudrait mener comme politique en matière de développement durable. Mais bon, moi, c'est mon dernier rapport d'orientation budgétaire et je n'entends pas ici vous convaincre. Mais vous savez, on en est à un point avec le développement durable. Je dirais, au même titre que Lincoln n'avait pas tout fait pour endiguer l'esclavage, il faut continuer après. Au même point que Churchill n'avait pas tout fait pour endiguer le nazisme, et il a fallu continuer après. Et ben là, c'est pareil. Le développement durable, il faudra continuer même après vous, hein, de toute manière. Hein.
Bien, je vais vous répondre. Alors effectivement, l'intervention de Madame Perrin n'avait pas grand lien avec le débat d'orientation budgétaire. Je vous rejoins sur le fait que ce sont des éléments de contexte, mais on s'est efforcé de limiter le contexte local à ce qui touche les finances publiques, les finances locales, à savoir la loi de finances. Évidemment, on aurait pu parler des gilets jaunes, on aurait pu parler des retraites, on aurait pu parler d'un tas de conflits sociaux, mais on n'a pas pour habitude de faire des rapports qui s'étendent trop sur le contexte social qui nous échappe. Mais on a centré ça sur, comme on le fait chaque année, sur le contexte des finances locales, donc ça explique pourquoi je n'ai pas insisté sur le sujet. S'agissant du bilan social, Monsieur Angers, on l'a présenté de manière, comme on le fait à chaque fois, on nous impose désormais de présenter un bilan, non pas un bilan social, mais un bilan de la situation homme-femme dans la collectivité. Bon, c'est un exercice un peu formel, ça ne résume pas notre politique en matière de personnel, et je crois pouvoir dire que Christine s'y emploie tout au long de l'année, à faire en sorte que nos personnels bénéficient, j'allais dire, d'avantages qui sont en croissance régulière. Et si on reprenait les avantages qui ont pu être consentis au personnel depuis le début du mandat, je pense que quelque part, personne ne peut se plaindre, qu'on a même été jusqu'à organiser des opérations visant à encourager la bonne santé de nos agents, qu'on met à leur disposition des cours de sport pendant le temps de travail, enfin entre midi et deux, pour faire en sorte que tout le monde se porte bien. On a toute une série d'attentions qu'on porte au personnel. Alors c'est vrai que dans un rapport comme celui-ci, ça peut apparaître comme étant présenté froidement. Mais à un moment, quand on doit présenter des chiffres que le législateur nous demande de présenter sur le nombre de femmes, le nombre d'hommes, c'est forcément des tableaux un peu froids. C'est pas, on n'est pas là dans un bilan qualitatif, on est dans un bilan quantitatif. Alors, en revanche, je suis en désaccord avec vous, je ne pense pas que dans le secteur public, on doit avoir plus de considération que dans le secteur privé. Pour moi, dans les deux domaines, on doit avoir autant de considération pour le personnel. Il y a d'ailleurs des agents du service... Vous semblez dire que dans le public, on devrait être plus démonstratif que dans le privé. Pour moi, le personnel est notre première richesse, où qu'on soit, dans toute organisation humaine. Et je ne fais pas de distinction entre le public et le privé. Je pense qu'on doit veiller à être proche de nos personnels, de veiller à leur motivation, de veiller à leur bien-être au travail, de veiller à leurs conditions de sécurité, de veiller à ce qu'ils puissent s'épanouir aussi à travers leur travail. On s'efforce de le faire au mieux. Et je connais un certain nombre d'entreprises qui font la même chose. Et je ne pense pas qu'il y ait une distinction à opérer entre le public et le privé sur le sujet. Et puis sur le développement durable, c'est vrai qu'on a, étant donné que les orientations budgétaires sont quand même à ce stade assez générales, je pense qu'on pourra vous apporter des réponses plus concrètes dans le budget, puisqu'il y aura évidemment un certain nombre d'éléments se rapportant au développement durable. Je rappelle quand même que, puisque vous évoquez le stationnement, c'est un élément de recette dans toutes les villes, hein, le stationnement, les recettes de stationnement traduisent quand même la fréquentation du centre-ville par des Sparnassiens, par des touristes, par des visiteurs d'une manière générale. Mais je rappelle aussi qu'on fait du développement durable à travers notre politique de stationnement, puisque d'abord, on consent une heure de stationnement gratuit partout. dans tous les parcs fermés, qu'on accorde, je crois, 2 heures de gratuité à tous les véhicules hybrides et véhicules électriques, qu'on a développé de l'autopartage, qu'on soutient l'acquisition de vélos électriques pour les habitants. Donc, c'est pas parce que on enregistre des recettes de stationnement en croissance qu'on ne se préoccupe pas du développement durable. On aura l'occasion d'y revenir plus dans le détail lors du budget. Mais c'est vrai qu'à ce stade, on a été quand même assez sommaire parce qu'on connaît les grandes masses, on connaît les gros investissements, mais toutes les actions qui vont être menées tout au long de l'année 2020, j'allais dire, incluent évidemment des éléments de développement durable. Je crois pouvoir dire qu'on a essayé tout au long de ce mandat de faire en sorte que le développement durable soit véritablement perçu comme une action transversale. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui de gestion de la ville qui n'inclut pas du développement durable, que ce soit à travers les véhicules utilisés, le travail qui est fait sur la rénovation thermique des bâtiments, les démarches de citoyenneté qui sont entreprises. Dans tous les domaines aujourd'hui, on est sensible. Les déchets qu'on produit, il n'y a pas un domaine aujourd'hui, et c'est sans doute une des grandes évolutions qu'on a connues depuis 10 ans. Il y a 10 ou 15 ans, on avait une amorce de services développement durable, mais qui était un petit peu isolée, parce que c'était un énième service de la ville. Aujourd'hui, la dimension développement durable, elle a été intégrée par tous les directeurs de services, par tous les chefs de services, et dans toutes nos politiques, on a des éléments de référence liés à des critères environnementaux, et c'est normal. J'en fais pas tout un plat. Je dis simplement que voilà, le développement durable doit être une constante dans toutes nos politiques. Alors c'est vrai que du coup, ça apparaît moins évident. C'est pareil pour l'accessibilité handicapée. On doit approcher aujourd'hui les 90 ou 92% d'accessibilité de nos équipements. Ça se fait tous les ans, un petit peu plus chaque fois. On approche des 100%. On y sera peut-être dans quelques années. Mais en tout cas, là aussi, on n'en parle pas à chaque fois. Mais c'est toute une série d'efforts qui sont faits secteur par secteur. Éducation, sociale, tous les équipements culturels, équipements sportifs. On fait en sorte que ça progresse. Et c'est une constante de notre politique. Madame Perrin.
Oui. Si j'ai rappelé le contexte national, c'est aussi parce que ça, au niveau local, on doit pouvoir permettre d'atténuer cela. Et ce que disait Monsieur Angers, c'est pas sur le traitement du personnel, mais c'est que le personnel des services publics, il est là pour rendre service au public. Et que moins il y a de personnel, moins il y a de services publics.
Non, pas du tout.
Et que d'autre part, on va, comme un sujet sur l'eau, par exemple, qui est très cher, l'atome que les gens payent maintenant. Avant, c'était des gens qui ne payaient pas d'impôts. Là, ils se retrouvent à payer entre 100 et 150 euros de tonne. Et pour des ménages en difficulté, ça a un impact considérable sur leur budget. C'est tout ça qu'on remet en cause dans votre politique.
Oui, mais l'atome, elle touche tous les producteurs de déchets. Tous les gens produisent des déchets. On peut considérer qu'effectivement, c'est une charge qu'ils ne payaient pas avant. Et en même temps, le gouvernement supprime la taxe d'habitation, qui va être une économie nette pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, les Sparnassiens, la plupart d'entre eux, sauf les plus aisés, parce qu'ils ne bénéficient pas pour l'instant de la disparition, mais tous les gens de classe moyenne ou des gens modestes ont constaté une baisse de leur taxe d'habitation, sauf ceux qui, évidemment, en étaient exonérés de par la loi. Donc, il y a des dépenses supplémentaires dans un certain nombre de domaines. Et je rappelle que la loi a prévu que la TOM, elle soit payée par tous les habitants, quels qu'ils soient, tout simplement parce qu'ils sont tous producteurs de déchets. C'est une taxe affectée, c'est pas un impôt. C'est une taxe qui vise à équilibrer le poste gestion des déchets, prévention et gestion des déchets. L'objectif étant de faire de cette taxe une taxe à dimension pédagogique, à chaque fois, ce qui signifie très clairement que plus on fera des efforts dans les années qui viennent en matière de déchets, et on va devoir investir massivement en la matière pour éviter des augmentations très importantes. On en a parlé lors du dernier Conseil communautaire ou l'avant-dernier Conseil communautaire. Plus on pourra contenir cette taxe. Parce que sinon, les coûts de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, vont augmenter fortement. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est un moyen de pousser les entreprises, tous les producteurs de déchets à en produire moins. Nous-mêmes, on doit faire des efforts en la matière, mais on ne peut pas non plus considérer qu'il y a ceux qui payent leurs déchets, ceux qui ne les payent pas. Ce ne serait pas juste. Pas d'autres questions ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre l'ordre du jour. Nous passons au rapport 2.1, Christine Mazzi, si je ne me suis pas trompée.
Non, c'est ça.
C'est ça ?
C'est ça. Donc, il s'agit de versement d'avance à certaines associations et organismes, donc d'avance sur le budget 2020. Les crédits du compte 75-74, les subventions aux associations, ne seront ouverts que lors du vote du BP 2020. Aussi, afin de ne pas pénaliser les associations et organismes qui reçoivent des subventions importantes nécessaires à leur fonctionnement, notamment qui ont des salariés, je vous propose d'accorder des avances à prendre sur les crédits à voter ultérieurement. C'est une délibération que nous prenons chaque fin d'année.
Voilà, c'est une facilité qu'on donne aux associations, à savoir de pouvoir, non pas par anticipation, mais dès le 1er janvier, toucher la subvention à laquelle ils auront droit au vote du budget, mais sinon il y aura un décalage chez eux qui serait pénalisant. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Rapport 2.3, Christine.
2.2.
Oui, 2.2, pardon.
Donc, cette délibération concerne le chauffage urbain. Je vous invite à adopter la délibération qui nous permet de procéder aux appels mensuels relatifs à la fourniture de chauffage pour les clients qui sont raccordés au réseau de chauffage urbain. Cet appel mensuel sera de l'ordre de 45 euros, puisqu'on vous rappelle dans la délibération les différents coefficients, donc le R1 qui correspond à la consommation, et le R2 qui correspond à l'entretien. Le R3, c'est une toute petite part qui correspond au suivi technico-financier.
Je précise sur ce point qu'on a effectivement une baisse très sensible de l'appel mensuel du R1, donc qui correspond au coût du gaz. C'est parce que depuis quelques temps déjà, on fait des appels d'offres régulièrement dans le cadre de commandes groupées avec d'autres collectivités. Et le fait de pouvoir acheter en masse, évidemment, nous permet d'avoir des tarifs plus avantageux qui sont évidemment répercutés sur les usagers. On a en revanche une légère progression de l'appel du R2 finançant l'entretien de la chaufferie et du réseau primaire. Et on a engagé une réflexion qui se poursuivra évidemment sur le projet d'adosser le chauffage urbain sur une énergie autre que l'énergie fossile. On pense à la biomasse parce qu'on a un potentiel à proximité. Et donc, ça fera partie des réflexions qu'il faudra poursuivre dans les mois qui viennent. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons au rapport 2.3. Christine.
Donc, il s'agit d'une garantie d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SA d'HLM Pluriel Novilia. Je vous propose d'accorder à Pluriel Novilia la garantie de la ville à hauteur de 100% pour un emprunt de 2 258 000 euros afin de financer la construction de 17 logements situés rue Jean Talon à Épernay, dans le quartier Rosemont.
Effectivement, si vous passez dans le quartier, vous voyez qu'il y a effectivement des bâtiments qui s'élèvent les uns après les autres. 2020 va être l'année de renaissance de ce quartier, puisque de nombreux logements vont être construits. Certains sont d'ailleurs occupés. J'ai pu le voir lors du défilé des voitures anciennes hier. Ça va redonner vie à ce secteur qui a toujours été un secteur très vivant, qui s'appelait autrefois Beau Soleil, vous le savez tous, et qui s'appellera maintenant Rosemont. En tout cas, je pense que les locataires ont hâte, pour certains d'entre eux, de venir dans ce quartier qui sera, j'en suis sûr, extrêmement agréable, parce que très, très verdoyant, notamment. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.4.
Il s'agit de l'ajustement de la subvention versée à la Caisse des écoles, puisque cette subvention versée par la ville est ajustée en fonction des dépenses et des recettes qui ont été réellement engagées. Je vous propose donc d'adopter le montant définitif de cette subvention qui est accordée à la Caisse des écoles pour l'année 2019 à hauteur de 116 000 euros.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2.5, la DM numéro 5.
Donc oui, la décision modificative numéro 5. Donc elle concerne d'une part le budget ville. Donc en dépenses et en recettes, nous avons l'inscription de la valorisation des éducateurs sportifs aux associations. Une petite remarque, puisque nous avons une année de retard dans cette comptabilisation, donc nous avons à la fois 2018 et 2019. Donc le second point concerne des écritures. Là, il s'agit uniquement d'écritures comptables qui n'entraînent pas de dépenses. Donc des écritures comptables qui sont liées à des rattachements qui ont été mandatés pour un montant moins important que prévu. Notamment, il s'agissait de frais liés à la renégociation d'un emprunt. Et puis, des rattachements également qui ont été comptabilisés en 2019, mais sur une nature comptable différente. Et donc, la trésorerie nous a demandé de les comptabiliser sur une autre nature comptable. Et puis, cette DM concerne également le budget des cellules commerciales de Bernon. Donc, l'inscription est relative à la régularisation des appels de charges de 2017 et 2018. Le montant appelé étant inférieur, il convient de procéder à une annulation de titres sur la période, puisque les travaux qui ont été réalisés dans les cellules ont modifié le montant des charges.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. On poursuit avec le rapport 2.6 concernant les tarifs 2020.
Christine. Donc, comme chaque année à la même époque, il convient de procéder à l'examen des tarifs municipaux. Aussi, je vous propose d'appliquer à compter du 1er janvier 2020 les tarifs tels qu'ils résultent des tableaux qui sont annexés au rapport en votre possession.
Alors, on n'a pas d'évolution majeure. On a parfois des ajustements à la hausse, mais qui se limitent au maximum à 1,5% en général. Pas mal de tarifs stables également. On essaie de tenir compte également du fait que, ben évidemment, si on applique des tarifs en hausse, c'est parce qu'on a aussi des charges en hausse, hein, puisque les services, pour rendre un certain nombre de services, il faut que la ville chauffe des bâtiments, il faut que la ville augmente son personnel, il faut que la ville subisse un certain nombre d'augmentations de charges. Donc il est normal de le répercuter dans une mesure modérée à l'égard des usagers. Y a-t-il des questions ? Marc ?
Ce n'est pas une question, c'est une proposition que j'ai déjà faite à plusieurs reprises. Ce serait donc pour favoriser le commerce en centre-ville de mettre 15 minutes gratuites dans les horodateurs pour que les gens puissent se garer et puis faire leur prendre livraison de leurs courses.
Alors ils l'ont déjà, puisqu'avec l'application Pay by Phone, le premier quart d'heure est gratuit, tous les jours. Quand vous utilisez l'application... Elle vous offre un quart d'heure tous les jours, hein, je crois que c'est ça. Hein.
Oui, donc ceux qui ne prennent pas l'application,
ils doivent... C'est déjà, il y a une heure de gratuit dans tous les parkings fermés. Donc,
oui, dans les parkings fermés.
Ouais. Mais si vous, et le PIAF également.
Si vous arrêtez devant un magasin qui a des places de parking, vous devez payer ça. Sauf s'il y a un arrêt minute.
Alors, les arrêts minutes sont gratuits aussi. Donc, je pense qu'on s'en tire pas mal parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à avoir l'heure gratuite dans tous les parcs fermés. On a maintenant le quart d'heure gratuit et en plus il est facile,
à
contrôler parce qu'avec le smartphone on a un décompte très précis. On peut même charger du temps supplémentaire depuis son smartphone. Donc je pense qu'aujourd'hui, précisément pour cet achat de pain, c'est-à-dire c'est vraiment le PV le plus agaçant, c'est quand vous arrêtez 2 minutes quelque part et que, ou 5 minutes, on va dire 5 ou 7 minutes pour aller chercher votre baguette de pain. Vous avez oublié de payer parce que vous n'avez pas de monnaie et vous attendez la monnaie du boulanger pour payer le parcmètre. Ben là, pour le coup, vous avez maintenant systématiquement le quart d'heure gratuit. Donc je pense que c'est une avancée sur le coup. D'autres questions ? Monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire. Vos amis ministres, messieurs Le Maire et Darmanin, ont décidé de ne pas augmenter le SMIG au 1er janvier 2020. Donc pas de hausse de SMIG, pour moi, pas de hausse de tarifs municipaux. Donc moi, je voterai les tarifs qui sont stables et je voterai contre les tarifs qui prévoient une augmentation.
Très bien. Ils ne sont pas spécialement mes amis, je ne les connais pas pour tout vous dire, je ne les ai jamais rencontrés. Donc...
Mais ceux-là, ils ne sont pas des missionnaires.
Ah, j'ai rencontré Darmanin à la foire de Chalon, effectivement. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Avis contraire, donc. Ouais. Oui. Vous, à chaque fois, vous votez William Machard. Hein. Donc, avis contraire, 3, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.7. Christine.
Oui. Alors, dans le cadre du dispositif de réussite éducative, la directrice du service éducation est mise à disposition du CCAS à raison de 8h45 par semaine. Le remplacement de Stéphanie Vieille par Delphine Grosjean à la tête du service éducation nécessite de mettre à jour la convention. Je vous invite donc à approuver les termes de cette convention qui est jointe à votre rapport et à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2.8, Christine.
Donc il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Je vous propose de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la création d'un poste d'attaché de conservation à temps complet afin de remplacer la directrice du musée, de créer également un poste de responsable du pôle administratif et financier des centres sociaux à temps complet, un poste de technicien bâtiment à temps complet et un poste de technicien en charge de la gestion technique des bâtiments à temps complet. Ces deux derniers postes sont créés dans le cadre de la création du service commun bâtiment que nous allons voir dans la délibération suivante.
Oui, je précise pour le conservateur du musée que Gaël Gauthier a quitté la région, elle a suivi son époux, je crois, dans le sud-ouest, et que c'est la responsable des musées de la ville de Beaune qui rejoint Épernay dans les semaines qui viennent, je pense.
Début d'année.
Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.9.
Alors, il s'agit de la création du service commun bâtiment. En effet, depuis 2014, la ville et l'agglomération ont engagé une démarche de mutualisation de certains de leurs services. En 2018, une réflexion a été engagée en vue de la création d'un service commun bâtiment partagé entre la ville et l'aglo. La proportion du patrimoine bâti des collectivités qui est géré par le service commun sera de l'ordre de 70% pour la ville et 30% pour l'aglo. Il est donc décidé de confier la gestion de ce service commun à la ville. Je tiens à préciser que c'est un travail qui, cette mise en place du service commun, c'est un travail qui a occupé Marie-Charlotte Giraud, la directrice des bâtiments, qui a été recrutée à cet effet tout au long de l'année. Et je tiens également à porter à votre connaissance que ce projet a reçu l'avis favorable du comité technique lors de sa dernière réunion. Je vous invite à approuver la création du service commun bâtiment entre la ville et l'aglo à compter du 1er janvier 2020 et d'approuver les conventions annexées au rapport en votre possession.
Merci. C'est effectivement une avancée importante puisqu'on avait les services bâtiments assez dotés au niveau de la ville et avec des spécialités, notamment sur les problèmes thermiques et autres qu'il n'y avait pas à la communauté. Le fait de mutualiser permettra à la communauté de bénéficier de l'expérience des agents de la ville et réciproquement dans d'autres domaines. Mais je veux dire qu'il y a un travail important qui a été fait par nos services respectifs de la ville et de l'aglo pour aboutir à un projet qui, comme Christine l'a dit, a été approuvé par les comités techniques. Des questions, Madame Perrin ?
Je vois ici qu'il n'y a pas d'agents transférés. Donc les agents de l'aglo qui travaillaient sur ces questions-là, ils ne sont pas transférés.
Alors il n'y avait pas d'agent d'aglo au niveau, il n'y a pas de service bâtiment à proprement parler au niveau de l'aglo. Ils ont un service régie, mais qui restera régie. Et donc il n'y aura pas d'agent communautaire au niveau de ce service.
D'accord.
Donc, il y avait un seul agent, enfin un DGA, et puis un agent qui resteront aglo, puisque l'agent qui travaillait au niveau des bâtiments va avoir en charge toute la gestion, notamment du millésium et d'un certain nombre de postes, notamment la gestion des baux des différents bâtiments.
Donc, il y avait notamment des accords qui pouvaient exister entre, par exemple, sur le secteur du Vertu, sur des équipements scolaires, avec la mairie de Vertu, qui mettait à disposition des... Parce que là aussi, c'était difficile, quand on gère assez peu d'écoles, d'avoir des personnels dédiés, parce qu'on n'intervient pas tous les jours dans les écoles. Donc c'était les agents de Vertu qui intervenaient dans les écoles de la communauté, et la vie et la communauté remboursaient au prorata des heures effectuées la commune de Vertu. Donc, historiquement, nos communautés de communes n'ont jamais eu vraiment beaucoup de personnel en matière de bâtiment. Par contre, on en a beaucoup dans les réseaux, puisqu'évidemment, eau et assainissement, c'est une compétence principale. Donc, l'arrangement qui est trouvé est intéressant, parce que ça permet, là où la ville avait un effectif en termes de bâtiment, avec des bureaux d'études, avec des ingénieurs, des techniciens, etc., de les faire travailler sur l'ensemble du patrimoine, ce qui finalement profitera aux deux collectivités, en évitant d'avoir des doublons, par exemple, sur... on a un agent, je citais tout à l'heure, qui s'occupe, qui est un thermicien, qui s'occupe de tout ce qui est économie d'énergie. Il pourra le faire aussi bien aujourd'hui sur les bâtiments de la ville que sur les bâtiments de la communauté, alors que la communauté n'aurait pas eu l'utilité, compte tenu du nombre de bâtiments, n'aurait jamais pu occuper pour un thermicien un poste complet.
Donc là, vous transférez une charge de travail qui n'avait pas sur un effectif constant.
Non, puisque nous recrutons deux techniciens, comme je l'ai indiqué précédemment.
Monsieur Angers.
Oui, je vois que sur l'agglo, seulement 10 communes sont concernées et volontaires pour rejoindre donc cette nouvelle mutualisation. Ça veut dire que il y en a 40 qui sont.
C'est
dans le tableau, là.
Sur 10 communes, mais ce sont des équipements communautaires. Ils sont sur 10 communes. On n'en a pas dans toutes les communes.
On n'a pas dans.
Non, c'est-à-dire que les communes n'ont pas d'avis à donner puisque ce sont des équipements communautaires. Par exemple, une école. Les écoles, elles sont gérées par la communauté de communes. Elles appartiennent à la communauté d'agglo, pardon. Elles appartiennent à la communauté d'agglo. Elles sont à Val-des-Marais, elles sont à Chaintrix. Mais les communes n'ont pas leur avis à donner puisque ce sont des équipements communautaires.
D'accord.
Ça ne veut pas dire que, donc, effectivement, il y a 36 communes qui ne veulent pas. Il se trouve que nos équipements sont dans 10 communes et pas plus.
D'accord.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On passe au rapport 2.10. Christine Mazzi.
Alors, je vous propose de renouveler le groupement de commandes entre la ville d'Épernay, CCAS, la communauté d'Agglo et les communes de Plivaux, Moussy et Vertoulon pour l'achat de prestations d'entretien et de maintenance des équipements de sécurité incendie et de désenfumage des bâtiments.
Bon, ça, c'est assez classique.
Oui, à des nombreux groupements de commandes.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Pardon ?
Oui.
Ah, oui.
Oui, on le fera modifier, je l'ai indiqué déjà. Ouais.
On passe au rapport 2.11, Christine, toujours.
Donc, il s'agit de la vente aux enchères de véhicules. Donc, je vous propose de constater la désaffection du service public des véhicules dont la liste figure dans le rapport qui vous a été transmis, d'en prononcer le déclassement du domaine public municipal, d'approuver le principe de leur vente aux enchères et de fixer les montants de mise à prix. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le mandat de vente à la société Five Auction et tout document nécessaire à la vente de ces véhicules. Il est précisé que les honoraires de la société Five Auction seront à la charge des acquéreurs.
Merci. Des questions ? Pas de questions ? Oui, madame ?
Oui, juste une petite remarque. Comme je l'avais fait l'année dernière, j'avais émis le souhait de vendre aux enchères ces véhicules en premier aux Sparnassiens, plutôt que de les vendre aux enchères.
Alors, c'est pas légal, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est tenu à une neutralité en la matière, de même qu'on ne peut pas choisir des entreprises sparnassiennes sur le seul critère qui sont sparnassiens. Et celles sont sparnassiennes par rapport à des entreprises des communes environnantes ou d'une autre région, d'un autre pays. On n'a pas le droit, en l'occurrence, de réserver des enchères à une clientèle en particulier. Alors, ils auront peut-être l'information plus facilement parce qu'ils sont dépernés. Encore que, je ne suis pas sûr, mais évidemment, à partir du moment où...
Voilà. C'est bien dommage.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Une abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.12. Christine.
Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes qui sont énumérées dans le rapport en votre possession.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Je vous propose de... on va passer le rapport sur le repos dominical. C'est Jacques Fromm qui devait le présenter, mais il est en réunion à Chalon et il va rentrer en retard. Donc ça concerne l'avis qui est requis du conseil municipal concernant l'autorisation de déroger au repos dominical pour les commerces de détail. Vous avez la liste qui a été élaborée. Elle correspond chaque année à peu près aux périodes de solde, aux périodes de fêtes de fin d'année et aux différents événements, si le fête des mères et autres, qui peuvent intervenir et pour lesquels il y a une concertation qui se fait à l'échelle de l'agglomération pour qu'on ait à peu près partout les mêmes dimanches et pour que les habitants s'y retrouvent. Des questions ? Oui.
J'ai regardé tout à l'heure ce qu'on verra à l'agglo pour Pierry, et ce n'est pas le cas, ça ne correspond pas. Hein. Par exemple, Pierry n'a pas mis le Black Friday, etc. Hein. Pierry n'a rien mis en octobre, par exemple. Nous, on a...
Ah ben, ils concentrent peut-être sur d'autres
novembre,
moments.
Octobre et novembre.
Mais souvent, ils font les dates des vendanges, ils font des choses comme ça. Donc il se peut qu'à certains moments, ils fassent des promos, mais je ne suis pas sûr, en plus, qu'ils aient la capacité d'être décisionnaires. C'est souvent la chaîne qui même si ce sont des indépendants, c'est la chaîne qui définit sa politique au niveau national. Donc il se peut qu'il y ait quelques distorsions, mais globalement, on retrouve à peu près les mêmes dates, les dates de solde, les dates de fête de fin d'année.
Voit-on à l'aglo les jours pour Pierry et on ne voit pas les jours pour Épernay?
Si.
Ah ben, j'ai pas encore étudié, alors. D'accord.
Pas d'opposition. Une, deux ou trois oppositions. Abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.1. Magali Carbonel.
Merci, Monsieur le maire. Donc, le calcul de la contribution des communes extérieures tient compte de l'ensemble des dépenses de fonctionnement des écoles du premier degré. Aussi, pour l'année 2018-2019, il convient donc de fixer la participation des communes pour les élèves scolarisés en maternelle à 1 647 euros et élèves scolarisés en élémentaire, 620 euros.
Alors, ça représente, je crois, une...
Alors, toutes les dépenses de fonctionnement, hein, toujours plus importantes donc, en maternelle, comme il y a les ATSEM.
Oui. Et je crois qu'on avait pour le privé une légère baisse, mais qui est liée à une légère baisse des effectifs. Comme c'est par... Par enfant, forcément, la subvention varie en fonction des...
Et nous, c'est essentiellement pour les élèves qui sont en Ulysse, qui sont scolarisés en Ulysse, hein, qui viennent donc des communes extérieures.
Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons ensuite au rapport 3.2. Abida Sharif.
Merci, Monsieur le maire. Depuis 2003, la ville d'Épernay, le conseil départemental et l'association Le Club de Prévention ont créé une convention tripartite portant sur le service prévention spécialisée. Celle-ci arrive à expiration au 31 décembre 2019, donc ils en font une autre à partir des 1er janvier 2020. Donc je vous invite à approuver les termes de cette convention annexée à votre rapport.
Merci. Y a-t-il des questions?
Oui. Du point de vue de l'équipe du club de prévention, il y a toujours le même nombre de postes financés par le département?
Alors, c'est financé entre le département et la ville d'Épernay, je crois, tous les salariés...
J'ai pas connaissance qu'ils soient moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Ils ont même étendu leur activité, puisqu'ils interviennent maintenant vers Vitry-le-François. Ils ont des conventions avec la ville de Vitry-le-François. Et Cézanne également. Donc je pense qu'ils ont plus d'effectifs qu'avant, mais ils ont aussi étendu leur champ territorial.
Je vais voir avec eux et je te tiendrai au courant, Marc, de tous les postes et tous les éducateurs spécialisés, ainsi que tous les salariés du club.
Pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.3 qui concerne le contrat de ville.
Oui. Merci, Monsieur le maire. Je vous invite à prendre acte des rapports relatifs à la mise en œuvre de la politique de la ville pour l'année 2018, faisant également fonction de rapports relatifs à l'utilisation de la dotation solidarité urbaine.
Y a-t-il des questions sur ce rapport? Madame Perrin et Monsieur Lefebvre.
J'aurais une remarque à faire.
Oui.
Toujours pendant midi qu'on réunit.
Pardon?
C'est toujours pendant l'heure de midi qu'on réunit la commission.
Laquelle?
Les bourses au permis, tout ça.
C'est pas ce rapport-là. Vous avez de l'avance. On est sur le rapport d'avant.
On est sur le rapport d'activité contrats de ville, en fait.
Marc Lefebvre, une question?
Oui, quelques remarques concernant ce rapport. Vous l'avez... lu, il y a quelques constats toujours préoccupants. Hein. Au niveau de l'évolution de la population ce secteur, il y a son vieillissement, l'augmentation de la part des femmes, l'augmentation des familles monoparentales. Deuxième point, la paupérisation qui s'accroît. Le taux d'emploi des 15-64 ans est de 41%, donc ça fait que 59% d'emploi. Le taux de pauvreté est de 46,30%. Et la médiane des revenus déclarés est de 764 euros par mois. Alors, quelques causes aggravantes dans l'insertion et l'intégration. Je pense la cessation d'activité de la régie sparnassienne est pour beaucoup en 2018. La difficulté qui est notée de recruter des agents de médiation. Alors, ce que peut faire la ville, c'est intensifier son action pour recruter un deuxième agent de médiation, puisqu'il y a deux postes qui sont ouverts.
C'est fait, il commence le 31 décembre.
Oui. Enfin, il ne va pas commencer le 31 décembre quand même. Vous allez quand même lui faire commencer le 2 janvier. Ou...
Ben, c'est comme ça.
Bon, donc, voilà. Donc,
le contrat voilà. commence le 31 décembre 2019.
Bon, et puis un problème que j'avais soulevé, trouver une solution aux différentes cellules commerciales vides. Hein, donc, parmi les trois nouvelles cellules, c'est marqué la ville, pour la ville, deux restent à pourvoir. Et pour ma part, j'avais rencontré quelqu'un au niveau de... qui me disait qu'il y avait dans les cellules avant le bar qu'il y avait des frais d'électricité et que cette personne n'avait pas accepté de prendre la cellule parce qu'il y avait des travaux à terminer. Alors, est-ce vrai ?
Alors, les cellules sont livrées nues. C'est-à-dire que l'électricité arrive. Maintenant, l'électricité est à la charge du preneur, puisque c'est lui.
Non, mais il
n'y
a pas d'interrupteur, il n'y a pas de.
Ah, je pense que oui, oui. Non, je pense qu'il y a le courant qui arrive. Maintenant, quand on loue une cellule nue, évidemment, c'est à lui de concevoir son. En fonction de l'activité qu'il va déployer, il a des besoins électriques qui peuvent varier. Donc.
Et puis la troisième proposition, ce serait dans l'attribution du marché d'entretien des espaces verts. Essayer de faire travailler toutes ces gens qui recherchent de l'emploi. Alors, d'une manière ou d'une autre, hein, il faudrait peut-être changer. Avant, c'était attribué pendant un temps à la régie, mais maintenant, on pourrait essayer de monter quelque chose pour faire travailler ces jeunes à l'entretien de leur propre quartier.
Alors, ce n'est pas parce que ça n'est plus la régie qu'il n'y a pas de clause d'insertion sociale. Hein, dans nos marchés, il y a des clauses d'insertion sociale qui font que les entreprises sont tenues de prendre un certain nombre de personnes qui sont en insertion. Oui. Mais effectivement, la régie de quartier, on a tous regretté de la voir disparaître, mais elle a disparu parce qu'elle a, elle a failli dans un certain nombre de procédures de marché qui fait qu'elle s'est elle-même tirée une balle dans le pied. Ce n'était pas une volonté de notre part. Elle s'est mise hors jeu et c'est tout à fait regrettable. Pour autant, d'autres activités d'insertion sont menées sur le territoire. Et à chaque fois qu'on peut le faire, on fait appel ou à un système de clause d'insertion ou à des associations qui interviennent dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
On fait oxygène, notamment.
Oui.
Oxygène et puis même Artopia.
Bien sûr. Artopia aussi. Bien sûr. Ouais. Pas d'autres questions ?
Artopia, quel marché ?
Oui, oxygène, c'est pour d'autres trucs, mais on fait
l'insertion. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.4 qui concerne la bourse au permis. Abida.
Oui, maintenant on arrive à la bourse au permis. Donc je vous propose d'approuver le versement de bourse au permis de conduire d'un montant de en totalité de 4 200 € aux trois candidats énumérés dans le rapport en votre possession. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a un peu changé les conditions d'attribution. D'ailleurs, Jean-Paul, Madame Demange était là pour les changements. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas énormément de candidats parce que quand il y a un changement, il y a toujours un temps d'adaptation aux personnes pour qu'elles puissent s'approprier le dispositif. Donc, trois candidats, voilà, ils ont eu leur bourse. Et les conditions, c'est que maintenant, on a décidé qu'il faut avoir d'abord le code de la route avant d'avoir la bourse pour que la personne puisse apprendre à conduire tout de suite parce que ça nous posait beaucoup, beaucoup de soucis. C'est-à-dire que les personnes, elles étaient coincées avec le code de la route, elles n'arrivaient pas à l'avoir. Du coup, l'argent reste, les autres, on ne peut pas l'attribuer aux autres. Donc, voilà. Concernant les réunions, en général, on se concerte. La commission Noira, elle se concerte avec tous les membres de la commission. La commission, qu'est-ce qui nous arrange pour l'horaire. Voilà, on ne peut pas faire plus. Je suis désolée.
Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 4.1. Pierre Marandon.
Merci, monsieur le maire.
Ah oui, pardon.
Quand tu veux, Abida.
J'ai pas fini. Mais c'est après.
Bien, merci. Le legs effectué par madame Rigueron-Garrigue d'un montant de 341 961 euros permet d'attribuer des allocations aux étudiants sparnassiens dits méritants selon des critères définis par la légataire. La commission Rigueron, réunie le 4 novembre dernier, a examiné 63 dossiers et a décidé d'attribuer 58 allocations correspondant aux critères définis. a proposé d'octroyer 3 allocations exceptionnelles. C'est pour ça que cette délibération est présentée aujourd'hui en Conseil, compte tenu de situations particulières, de ressources, de situations familiales ou de lieux d'études, en l'occurrence au Mexique, et a refusé 2 dossiers compte tenu du niveau de ressources des familles. L'attribution globale pour cette dotation 2019 s'élève à 36 010 euros, comme détaillé dans le projet de délibération. Pour compléter votre information, depuis 2003, 864 allocations, dont 70 exceptionnelles, ont été attribuées à 540 bénéficiaires pour un total de 350 500 euros. Le solde, grâce au placement du legs, s'élève aujourd'hui à 194 000 euros.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Pierre, on poursuit avec la mise à disposition de fonctionnaires de la ville au profit d'associations.
Oui, c'est une délibération qu'on présente chaque année. La ville met à disposition d'associations sparnassiennes des éducateurs territoriaux afin d'accompagner ces associations dans l'encadrement de leurs activités sportives. Cette mise à disposition est soumise à conventionnement entre les clubs et la ville. 4 agents sont concernés par cette convention qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Je précise que les conventions de Thierry Gorguet, Alexis Rouquette et Michael Godefroy, donc 3 autres éducateurs, ont été renouvelées en juin dernier. Vous avez en pièce jointe le texte des conventions que je vous invite à adopter.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit par le rapport 4.3, toujours Pierre.
Oui, cette délibération annuelle établit la valorisation de mise à disposition gracieuse des équipements sportifs pour un montant global de 1 128 500 euros au profit d'associations sparnassiennes, sachant qu'il s'agit pour les clubs d'une opération neutre qui apparaît dans leur budget en charge et en recette.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4.4, Christine.
Oui, donc toujours dans la même lignée. Là, cette fois, il s'agit de la mise à disposition de personnel municipal aux associations. La tarification des coûts de mise à disposition du personnel municipal conduit à leur facturation aux associations et permet de préciser l'effort financier de la ville d'Épernay dans le domaine sportif. Toutefois, la trésorerie de ces associations ne leur permet pas d'honorer les factures. Je vous invite donc à approuver le principe du versement d'une aide qui compensera exactement le coût de mise à disposition du personnel municipal sur l'année 2019. Dans la délibération, vous avez un tableau récapitulatif pour les associations concernées et le montant des mises à disposition de personnel.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On retourne vers Abida, rapport 4.5.
Merci, Monsieur le maire. Comme tous les ans, vous le savez, il y a un fonds de coopération qui est attribué à notre ville Jimel, au Burkina Faso, Fadengourma. Donc, ce fonds a pour objectif de renforcer la gestion durable des ouvrages hydrauliques afin de garantir de l'eau potable. Donc, il sert aussi à faire de la formation aux acteurs locaux et ainsi à la mise en place des conventions entre la commune de Fada, la ville de Fada et les artisans et les réparateurs. L'année dernière, ce fonds a réalisé 2 pompes à eau. Donc, voilà, comme tous les ans, on vous propose donc ce fonds de coopération pour notre ville Jimel.
Merci.
Vous avez
je rappelle
tous les détails dans le rapport, en votre possession.
Je rappelle que la communauté de communes et d'agglomération est également engagée à travers le fonds Santini-Houdin qui permet là aussi de lever des fonds au bénéfice de la commune jumelle de Fadengourma. Oui.
Oui, on l'a évoqué un petit peu lors de la dernière commission. Donc la situation semble très très délicate à Fadengourma, notamment avec des mouvements de population sous la pression de Daesh. J'ai eu confirmation de ces éléments également par des membres d'Épernay Jumelage. Donc je pense qu'on peut avoir également une pensée pour notre ville jumelle dans ces circonstances. Et puis peut-être en faire l'écho sur Épernay le journal pour marquer notre soutien. Et puis par là même illustrer que même à des milliers de kilomètres, on n'est pas insensible à ces situations.
La question a été évoquée avec la, la mort de plusieurs soldats français il n'y a pas très longtemps, mais on est effectivement aux limites sud de l'opération Barkhane qui touche le Mali et qui fait qu'un certain nombre de terroristes s'en prennent maintenant au Burkina Faso. Alors, les villes ne sont pas touchées dans leur cœur, mais la ville de Faden Gourma rassemble plus de 40 villages. Et les plus éloignés sont parfois à 60 km de la ville-centre. Et par contre, il y a déjà eu plusieurs attaques terroristes contre des postes de gendarmerie locale avancés. Effectivement, ça devient de plus en plus compliqué, même pour nous, d'y envoyer des membres de nos associations de jumelage, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de les envoyer là-bas et de se retrouver au mieux kidnappés, au pire abattus. Donc on est de tout cœur avec eux, mais on fera effectivement, je pense que ce sera opportun dans le journal municipal de faire un petit sujet pour rappeler effectivement qu'ils luttent au quotidien. En plus, ce qui est profondément choquant, c'est qu'au Burkina Faso, il y a une grande diversité de religions et il y a une grande tolérance entre les religions. C'est-à-dire qu'on a des cultes. Comment ? Oui, encore aujourd'hui. C'est les terroristes. Enfin, les terroristes ne sont pas les représentants de l'islam, évidemment. Mais il y a toujours eu historiquement une grande tolérance entre les mouvements religieux, sauf qu'aujourd'hui, on a des fanatiques qui veulent justement dresser les uns contre les autres et qui s'en prennent d'ailleurs aussi bien à des musulmans qu'à des catholiques, tout simplement parce qu'ils sont au service d'une cause qui n'a rien de religieuse, mais qui est à des fins politiques et terroristes. Donc, effectivement, on fera un sujet avec quelques témoignages peut-être de nos amis de Faden Gourma, parce qu'ils méritent bien que... Bon, et on a reçu le maire de Faden Gourma il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre. On a eu l'occasion d'en discuter lors du déjeuner qu'on a eu ensemble. Effectivement, c'est stressant pour eux parce que c'est totalement imprévisible. Ça se produit la nuit souvent. Et les moyens de sécurité, les moyens d'observation ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc forcément, ils s'attaquent à des villages perdus qui n'ont aucun moyen de défense. Et encore une fois, c'est une situation très difficile à vivre.
Et hier encore, j'ai échangé avec le directeur de cabinet. Et ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes parce que les villages, maintenant, ils viennent se réfugier à Fada elle-même. Donc Fada, elle est très peuplée en ce moment, la ville-centre.
Oui, quand les gens ont peur, ils vont dans la ville-centre s'estimant plus protégés parce qu'il y a effectivement des moyens de police plus conséquents dans la ville-centre.
Puis c'est éclairé, puis voilà.
Donc on prendra l'initiative dans le cadre du journal local. Non, mais permet le journal, pardon. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté, je vous en remercie. Christian Demange, un rapport 4.6.
Merci, monsieur le maire. Donc, sujet complètement différent. Vous savez qu'entre le Salman Azab et la ville d'Épernay, il existe un partenariat et qui labellise certains spectacles, on les appelle Épernay Spectacle, 2 à 3 par saison. Alors, je vous propose, dans le cadre de ce partenariat et pour l'organisation d'une représentation d'un spectacle intitulé Bells and Spells de Victoria Thierrier Chaplin et qui sera joué le 12 mars 2020, d'approuver le projet de convention annexé en rapport de votre au rapport en votre possession.
Je crois que c'était un spectacle qui avait été déprogrammé, celui-là, je crois. C'est pas celui-ci ?
Non.
Qui avait dû être annulé.
Non, c'était le spectacle de sa mère et de son père qui avait été joué une fois, puis annulé en raison de technique et de santé. Et là, c'est la petite fille de Charlot, donc Chaplin, elle est française, et Aurélia Thierrier, voilà. Et c'est donc un spectacle de cirque poétique.
Très bien.
Si elle a en fait, c'est une subvention de 9000 euros.
Si elle a le même talent que son grand-père, ça promet. Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 4.7, toujours Christian.
Alors, il s'agit cette fois de conventions de mécénat pour le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Donc, je vous propose d'accueillir deux nouveaux mécènes. En mécénat numéraire, le Champagne Desbros père et fils, qui s'engage à verser 5 400 euros. À titre gracieux, le Rotary Club d'Épernay qui s'engage à verser 3 000 euros, même titre gracieux, et un mécénat plus participatif, Épernay Patrimoine, qui s'engage à prendre en charge une facture de restauration de verreries gallo-romaines et mérovingiennes pour un montant de 2 376 €.
Merci. On aura l'occasion de les remercier, évidemment, comme l'ensemble des mécènes. Des questions ? Oui ?
À ce propos, où en est le dossier de recherche d'un restaurateur du point de vue gastronomique ?
Ça n'appartient pas au mécénat, ça.
On a des visites qui ont lieu régulièrement. Pour l'instant, on attend de voir, mais il y a des touches. Oui ? On dit comme ça, des touches. On le saura bientôt, je pense. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.1 de Joachim Verdier.
Chers collègues, la ville d'Épernay et la communauté d'Aglo se seront rapprochés en 2016 et en 2018 pour déterminer le cadre de l'intervention de la ville pour l'entretien, le nettoyage, l'éclairage et les petits travaux de voirie sur les voies communautaires durant 3 ans. Les zones d'activité Terre Rouge, Val de Champagne, Pierry-Sud Développement ainsi que la zone industrielle de Mardeuil sont concernées dans ce dispositif. C'est une convention donc, que nous avons déjà eue et qui arrive à échéance. Il nous faut la renouveler. Vous avez en annexe 1 des exemples de contributions financières de l'AGLO pour compenser ces travaux. Et je précise à Mme Perrin que l'AGLO ne dispose ni de matériel ni d'hommes pour faire ces entretiens. C'est pour ça que la ville intervient à ce niveau.
Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Je présente le rapport 5.2 et j'excuse Anne-Marie Legras, dont la fille attend un heureux événement pour cette nuit. Donc je pense qu'elle a un petit peu la tête ailleurs et c'est normal. Ça concerne donc une convention relative au financement des études APO liées aux travaux connexes sur le domaine ferroviaire et l'émission de visa des études APO à la réalisation de la passerelle piétonne. Ce qui sera donc situé à proximité de la gare. La collectivité s'est engagée dans la réalisation d'une passerelle passe-quartier en gare d'Épernay, programme clé du pôle d'échange multimodal. Elle aura à la fois la fonction urbaine de relier le centre historique au futur quartier des Berges de Marne et également le rôle de mise en accessibilité des quais SNCF Réseau. De ce fait, en raison des impacts de l'ouvrage sur le domaine ferroviaire, les études de la passerelle nécessitent de passer une convention avec SNCF Réseau, dont le projet joint au dossier en votre possession est détaillé dans le rapport. Alors, on n'a pas encore attribué aujourd'hui le marché concernant la réalisation de la passerelle. C'est d'ailleurs William Richard qui représente l'opposition dans le jury. Ça doit se décider bientôt, je crois. Je sais plus, j'ai plus la date en tête. 13 janvier. 13 janvier, puisqu'il y avait un certain nombre de questions à poser aux différents candidats. Et cette passerelle, donc, en même temps, desservira les quais de train directement par ascenseur, de manière à ce que les personnes handicapées puissent, qui pourront elles-mêmes accéder à la passerelle, évidemment, puissent utiliser ces ascenseurs et accéder directement au quai par le haut et non plus par le bas, comme c'est le cas actuellement, dans un souterrain qui n'est pas spécialement attrayant. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.3, j'imagine. C'est qui ? Ah, c'est Jacques. Mais comme j'ai pas... Ah, ouais, rapport. Je vais laisser Jacques le présenter quand il arrivera, hein, parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. Mais sinon, je le représenterai à la fin de la séance. On poursuit avec le rapport 5.4. Ah bon, sinon, je peux vous présenter le rapport, puisqu'on m'a donné le résumé. Je ne savais pas. Chers collègues, par délibération, en date du 26 juin 2018, le Conseil municipal d'Épernay a adopté les principes de la convention cadre pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville d'Épernay. Dans ce cadre, je vous propose d'adopter un avenant à la convention permettant de lancer la phase de déploiement du programme et d'intégrer le dispositif d'opération de revitalisation du territoire créé par la loi Élan. Les avantages de ce dispositif, qui vise notamment à conforter les centres-villes par des effets juridiques, sont détaillés dans le rapport qui vous a été transmis. Effectivement, quand la convention Action Cœur de Ville a été lancée à l'origine, l'ORT n'existait pas et il a été décidé par le législateur que toutes les opérations, toutes les communes concernées, je crois qu'il y en a 222 en France concernées par les opérations de Action Cœur de Ville, pourraient bénéficier du statut d'opération de revitalisation du territoire, ce qui permet notamment... sur un certain nombre de sujets, l'urbanisme commercial et autres, d'avoir un certain nombre
de facilité et d'éléments de souplesse. Donc, évidemment, la signature de cet avenant nous intéresse fortement. J'ajoute que dans cet avenant, il est mentionné également la possibilité d'intégrer à l'opération de revitalisation du territoire deux communes de notre agglomération, à savoir Blanquetot et Avize, qui ont aussi des centres-villes plus modestes que chez les Pernets, évidemment, mais avec des problématiques d'habitat et de soutien à l'activité commerciale. Et donc, il est prévu dans cette convention que, une fois qu'une étude aura démontré l'existence d'un besoin dans ces deux communes, besoin compressant mais qui n'est pas encore avéré, ces deux communes pourront bénéficier également du statut d'une ORT qui sera distincte de l'action cœur de ville, parce qu'évidemment, comme son nom l'indique, Action cœur de ville réserve des actions pour les cœurs de ville moyennes, et ça permettra néanmoins à Avize et à Blanquetot de bénéficier d'actions de soutien pour mener des opérations de revitalisation de leur cœur de commune. Des questions, Madame Perrin.
Est-ce que le changement d'appellation permet d'avoir des subventions ?
Là, non, en l'occurrence, alors ça reste Action Cœur de Ville, mais on a en plus un statut juridique différent qui est une opération de revitalisation du territoire. On ne l'appellera pas ERT, ça restera Action Cœur de Ville. Donc les subventionnements restent les mêmes. Simplement, il y a un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment, qui évoluent, qui doivent donner plus de capacité d'action aux communes concernées sur des problématiques essentiellement d'habitat. Et de soutien à l'activité commerciale. Ça nous fait bénéficier d'un statut renforcé à moyens supérieurs. Je ne pense pas que la convention ou l'avenant lui-même change la donne financière. Oui.
Je ne connais pas tout le détail, mais il y a un exemple juridique qui permettra d'avoir des avantages fiscaux pour les propriétaires bailleurs particuliers qui rénovent un appartement qu'ils auraient acheté et qui font des travaux de rénovation énergétique, notamment, ou d'amélioration d'habitat pour le louer à loyer modéré à des habitants. Donc ça, on bénéficie du dispositif de Normandie qui permet d'avoir une déduction. Voilà, on n'aurait pas eu sans ça et on déduit 25% du coût de l'opération sur quelques années, si c'est loué 6, 9 ou 12 ans. Il y a un taux différent en fonction
L'objectif qui est poursuivi par le gouvernement, c'est d'essayer de faire en sorte que les villes moyennes ne subissent pas, comme elles l'ont subi pendant des décennies, la disparition ou le délitement de leur commerce par des implantations en périphérie. Et il y a une volonté d'inciter commerçants, grande distribution également, et habitants à revenir habiter en centre-ville. Encore faut-il résoudre un certain nombre de problèmes auxquels on peut être confronté. En l'occurrence, à Épernay, c'est la vacance d'un certain nombre de logements du centre-ville qui sont parfois privés d'accès, puisque dans les années 70, 80, 90, dans certains commerces, on a carrément fait disparaître la montée d'escalier, ce qui fait qu'on ne peut plus monter dans les étages aujourd'hui, sauf en étant dans le commerce. Et ce qui, évidemment, ne permet pas la relocation des appartements situés au-dessus des commerces, alors qu'on a identifié plus de 200 logements disponibles aujourd'hui, mais qui sont, pour bon nombre d'entre eux, ou vétustes, parce qu'aucun travaux n'ont été faits depuis 30 ou 40 ans. Donc d'où l'intérêt d'opérations de réhabilitation de ces logements, ou tout simplement privés d'accès, et il faudrait reconstruire une cage d'escalier à l'intérieur pour pouvoir permettre de desservir parfois trois niveaux. Donc ça va être des opérations assez complexes, mais d'ailleurs ce qui est frappant, c'est que tous les centres-villes, on a pu discuter avec pas mal d'élus d'autres villes moyennes, sont confrontés au même problème. Il y a une époque où l'activité commerciale s'est faite au détriment de l'habitat. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de faire revenir des habitants dans les centres-villes en remettant sur le marché des logements qui sont disponibles, qui sont construits, qui sont certes pas isolés et donc des travaux d'isolation sont nécessaires, mais qui sont idéalement placés. Encore faut-il qu'on puisse les habiter et y accéder, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Angers.
Oui, je pense que vous avez raison pour ce qui relève de la disqualification d'un certain nombre de logements. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans un effet ciseau. Je vois, j'ai lu un peu en diagonale, mais j'ai relevé, page 8 du rapport, un marché en centre-ville peu accessible pour les ménages familiaux sparnassiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a des réhabilitations, elles sont de facto bien souvent destinées à un public qui vient de l'extérieur. Je pense notamment à un certain nombre de retraités de communes viticoles environnantes qui viennent acheter à Épernay parce qu'il y a un certain nombre de services qu'ils n'ont plus dans leur monde rural. Et puis il y a aussi un certain nombre de réhabilitations ou de logements qui sont orientés à destination de nos tourismes, de Airbnb, etc. Donc comment on fait la part des choses entre cette nécessité et cette volonté de refixer un public sur le territoire, tout en ménageant les choses par rapport à d'autres publics qui montrent une appétence parfois un peu excessive
Alors déjà, les aides sont ciblées sur le logement, hein, et l'habitat traditionnel et pas Airbnb, hein, ou Booking. Deuxièmement, sont conditionnées par des loyers modérés, conventionnés. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Mais effectivement, c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, il faut pouvoir se porter acquéreur éventuellement de ces logements, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, si on est même locataire, compte tenu des travaux de remise en état, les loyers pourraient être potentiellement chers. En revanche, ce qu'il est prévu, c'est qu'effectivement, tous les bénéficiaires d'Action Logement, c'est-à-dire tous les salariés d'entreprises qui cotisent à Action Logement, il y en a de très nombreux à Épernay, pourront bénéficier d'aides extrêmement importantes, y compris ou en se portant acquéreur ou en étant locataire, dans ces logements. Donc je sais par exemple que au dernier comité de pilotage, une responsable d'Action Logement était là et pouvait nous indiquer qu'un couple modeste, à partir du moment où le salarié travaille, enfin le... l'un des deux membres travaille dans une société qui paye à Action Logement la contribution que payent les entreprises, pourra bénéficier d'aides qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros en cas d'acquisition d'un logement en centre-ville. Ce sera réservé au périmètre Action Cœur de Ville, précisément pour faire revenir des catégories moyennes, on va dire, en centre-ville, pour retrouver une forme de mixité de public qu'on avait tendance à perdre, parce qu'effectivement... Au fil du temps, compte tenu des montants de travaux à entreprendre, compte tenu du pouvoir d'achat des uns et des autres, tout le monde n'avait pas forcément la capacité d'accéder en centre-ville. Et on voyait en centre-ville qu'on avait souvent des personnes âgées de niveau plutôt aisé qui venaient dans les logements en accession. Et par contre, en locatif, on avait également des personnes âgées qui étaient attirées par la profusion de services à proximité, mais au détriment d'une clientèle plus jeune qui pourra, par le biais de ces subventions d'Action Logement, bénéficier d'un accès au logement du centre-ville. Oui.
Juste compléter, parce qu'il y a une partie dans le diagnostic qui a été ciblée, c'était le logement pour les familles, mais aussi le manque qui a été constaté par le diagnostic fait par les experts nationaux, c'est aussi le manque de logement, de grands logements de plein pied haut de gamme, alors que ce soit des appartements ou des logements ou des maisons, que ce soit de plein pied. Alors on vise ici les retraités, les cadres des grandes entreprises qui ont besoin et qui ne trouvent pas en centre-ville. Donc ça a été relevé. Et ensuite, le manque pour les familles de trouver un appartement assez grand ou alors une maison avec un jardin comme toute famille souhaite acquérir. Donc il y a les dispositifs qu'on a évoqués avec Cœur de Ville, mais aussi, parallèlement à ça, il faut noter le PLU qui a évolué et qui propose des opérations d'aménagement programmées. Donc on a des quartiers qui vont pouvoir d'ici peut-être dans l'année être proposé à l'achat pour construire des nouvelles maisons, évidemment en respectant des critères de développement durable, c'est logique, mais c'est des lofts qu'on pourra retrouver sur Côte-le-Gris, sur le 13e RG ou sur le secteur de Platé, qui sont pas loin du centre-ville, en tout cas qui sont dans la ville-centre d'Épernay.
Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5, 4 et 5. Je vous invite, mes chers collègues, à accorder la rétrocession de concession funéraire à Madame Delage, une rétrocession de concession de 15 ans pour la somme de 75,29 euros, et à Madame Génin, une rétrocession de concession de 15 ans pour la somme de 157,38 euros. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons... au compte rendu de décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. Avez-vous, mes chers collègues, des explications à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé? Oui.
Oui, sur deux points. Le point numéro 13.
Micro, Marc.
Ah. Oui,
Pardon. Le point numéro 13, est-ce que l'indemnisation des assurances pour la place Bernard Stasi couvre la reprise des dalles? C'était l'assurance décennale.
Non, c'était l'expertise.
L'expertise.
Il y avait un contentieux et l'expert et le on est allé jusqu'au tribunal ou c'est un accord intervenu par les... un protocole d'accord. Oui, on l'avait passé au Conseil, effectivement. On a eu un jugement du tribunal administratif du 16 janvier 2018 qui a condamné la SAS EVTP et la SARL PENA et PENA à nous verser un total de 536 074 euros. Hein, donc c'est ce qui finance les travaux de reprise qui ont été...
Et puis deuxième demande de précision, la numéro 25... donc, vous avez exercé votre droit de préemption à la zone des forges pour 500 mètres carrés. Donc, dans quel but y a-t-il un projet?
Attendez. La coulée verte. C'est un morceau de terrain qui est situé le long de l'ancienne supérette qui s'appelait Dia, oui. Qui s'appelait ensuite...
Non, ça a fini par Dia avant.
C'est... Carrefour Contact, ou non, non pas Carrefour City.
Dia.
Carrefour Contact, c'est ça.
Oui.
Et il y a un délaissé, un espèce d'espace vert, et comme on a l'objectif de...
Ah oui, c'est la coulée verte.
De faire prolonger la coulée verte à terme jusqu'à Pierry, on a acheté un terrain, et d'ailleurs, je crois que... On était prêt à rétrocéder une partie.
Je ne la voyais pas ici, la zone des forges, ce morceau-là.
Oui. On va descendre. Enfin, l'objectif de la coulée verte, c'est à terme de relier le centre-ville à Épernay jusqu'à Pierry par des circulations douces, à pied ou à vélo. Et donc, on achète toute une série de terrains qui sont, quand l'occasion se présente, de manière à les ajuster les uns au bout des autres pour à terme pouvoir faire une coulée verte qui descende.
Après ça, il y a chez Jouy. Et là, comment vous allez...
Après ça, il y a...
Il y a les bassins, enfin les anciens bassins de la pisciculture de Jouy.
Oui, oui, oui. Mais on passera entre la pisciculture et les bâtiments qui sont rue des Forges. C'est-à-dire que pour la coulée verte, on n'a pas besoin d'une grande largeur. Donc la pisciculture est amenée, enfin l'ex-pisciculture, ce secteur-là est appelé à muter dans les années qui viennent. Donc l'idée, c'est de pouvoir descendre là et d'arriver un jour à terme jusqu'à Pierry pour avoir une continuité de cette coulée verte. D'autres questions? Pas d'autres questions. Nous avons le rapport d'activité de la communauté d'agglomération Épernay, Coteau et Plaine de Champagne. C'est une obligation légale que de présenter chaque année le rapport d'activité de l'intercommunalité, quelle que soit la taille de l'intercommunalité. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce rapport qui est donc présenté dans toutes les communes de l'Interco? Pas de questions particulières. Nous en arrivons au point numéro 8, à savoir un vœu que je vous propose d'adopter, qui concerne le dry January, c'est-à-dire le janvier sec. Mes chers collègues, Épernay a joué très récemment un rôle important pour éviter que l'État ne s'implique dans un projet pernicieux, en l'occurrence l'extension à notre pays de l'opération Dry January. C'est en effet lors de son déplacement dans notre ville en novembre dernier que les représentants de la Champagne, au nom de l'ensemble des professionnels du vin, ont pu alerter le chef de l'État sur ce projet et échanger très directement avec lui sur les conséquences que pourrait avoir une telle initiative pour notre économie. Nous lui avons ainsi indiqué que nous partagions tous la nécessaire obligation tout au long de l'année d'une consommation responsable du vin, mais que nous refusions l'idée d'un sevrage absolu pendant un mois, pouvant laisser de fait la porte ouverte à des excès pour les 11 mois restants. Cette vision simpliste du Dry January va d'abord à l'encontre de la santé publique. Je note d'ailleurs que les promoteurs de cette idée oublient les conséquences bien plus graves à l'échelle de la planète de la consommation effrénée de soda et autres boissons sucrées. Cette vision simpliste contribue également à diaboliser le vin, partie intégrante de notre patrimoine national, mais également local. Comme l'indique l'écrivain Philippe Claudel dans un texte récent, co-signé par de nombreuses personnalités, elle cherche à culpabiliser les amoureux du vin. Nous devons refuser qu'une vision hygiéniste, dont les errements ont abouti aux dérives de la prohibition, écarte le vin de notre quotidien. Fruit du travail de femmes et d'hommes remarquables et responsables, héritiers du savoir-faire des générations qui les ont précédés, le vin fait partie pleinement de notre identité champenoise. Il est notre ambassadeur dans la plupart des pays de la planète, comme il porte l'image de la France dans le monde. Rappelons également que l'activité viticole a laissé sur nos paysages une empreinte dont la valeur universelle exceptionnelle a été reconnue par l'UNESCO, qui les a inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Le champagne représente enfin un pan important de notre économie, tant pour ceux qui le produisent que pour ceux qui le vendent ou le font découvrir, comme par exemple les restaurateurs. Grâce au dynamisme de ce secteur économique, le taux de chômage de notre bassin est l'un des plus faibles de la région Grand Est. À l'heure où notre région se convertit activement à l'œnotourisme, gage de nouveaux visiteurs et de développement économique, et où les acteurs du champagne ont fait preuve de leur implication résolue dans une consommation responsable, nous nous devons de refuser toute opération visant à caricaturer et à stigmatiser le vin. La Saint-Vincent que nous allons célébrer le 18 janvier prochain à Épernay et le 22 dans les communes périphériques est une manifestation forte des liens qui unissent notre ville à la vigne et au vin. Elle est aussi la célébration du travail du vigneron et du négociant, ainsi que des aléas pesant sur leurs tâches. Ne rajoutons pas à ces aléas une contrainte artificielle qui doit plus à une bien-pensance moralisatrice qu'à un souci d'efficacité dans la prévention des excès. Si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de voter le vœu suivant. Le conseil municipal d'Épernay, réuni dans sa séance ordinaire le lundi 16 décembre 2019, marque son opposition à l'opération Dry January, souligne qu'une consommation responsable du vin est une nécessité qui s'oppose à toute vision prohibitionniste, voulant culpabiliser ceux qui le font et ceux qui l'apprécient pour ce qu'il est, un des plaisirs de la vie. Madame Perrin.
Il n'y a pas de différence profonde entre le janvier sans alcool avec le novembre sans tabac. C'est dans la même, c'est dans le même état d'esprit, donc je ne vois pas pourquoi
si ce n'est
ça serait choquant.
Si ce n'est qu'on est une région viticole et que, à ma connaissance, il y a une différence fondamentale entre le tabac et l'alcool, c'est que le tabac, dès la première cigarette, nuit à la santé, alors que c'est l'excès d'alcool qui nuit à la santé. Vous avez, vécu avec beaucoup de tristesse la disparition il n'y a pas longtemps d'Yvette Lindy. Je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'allais voir Yvette Lindy buvait un verre de champagne et revendiquait de boire du champagne. Elle est morte à 104 ans. Je ne suis pas sûr que si elle avait été consommatrice de tabac à outrance, elle aurait pu vivre aussi longtemps. Et puis, c'est aussi notre culture depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires en France, que de produire du vin. Encore une fois, je suis personnellement tout à fait favorable à ce que des mesures d'éducation, à ce que des campagnes de sensibilisation soient menées en France pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de consommation excessive. On est tous des citoyens responsables. Mais de là à vouloir imposer une norme qui consisterait tous le même mois à ne pas boire d'alcool, je trouve que ça ne correspond pas du tout à notre conception de la liberté. Et surtout, je revendique, comme beaucoup, le fait que le vin fait par la consommation de vin, la dégustation de vin fait partie de notre culture depuis la nuit des temps. Et qu'on ne peut pas se tirer une balle dans le pied au nom d'une conception hygiéniste de la vie qui serait extrêmement triste pour chacun d'entre nous. Monsieur Angers.
Oui, de mon côté, le vœu ne me dérange pas, bien évidemment. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant. Il me semble que vous avez reçu un monsieur l'autre jour. Je n'ai pas regardé son CV jusqu'au bout, mais il me semblait un peu chef là-dedans. Et il a dit, non, il n'en est pas question. Je croyais que l'affaire était pliée. Pourquoi on revient aujourd'hui
Parce que un certain nombre de lobbies sont en marche aujourd'hui, sans faire de jeu de mots avec la presse en marche. Il se trouve que le président de la République, pour le coup, partage notre avis, puisque lors de ce dîner, lors de ce déjeuner, il avait très clairement expliqué. D'abord, il découvrait cette initiative et ne savait pas qu'elle venait du ministère de la Santé. Et il a tout de suite exprimé sa désapprobation, indiquant que d'ailleurs, la semaine précédente, il s'était fait photographier à trois reprises avec le président chinois avec un verre de vin français à la main, précisément parce qu'il considère que son rôle est aussi de défendre les vins français dans le monde entier. Pour autant, vous avez vu comme moi les émissions de radio ou de télévision depuis, s'indignant du fait que le ministère de la Santé se désengage sans doute sous la pression du président de la République de cette initiative.
Donc il n'est pas vraiment chef.
Je pense qu'il est chef, en l'occurrence. Mais non, mais le problème, c'est qu'un certain nombre de lobbies, il n'a pas la pression sur les lobbies, mais en l'occurrence, un certain nombre de lobbies essaient aujourd'hui de nous culpabiliser en considérant qu'on devrait adopter ce genre d'initiative. Moi, ça m'irrite au plus haut point. Et je trouve qu'il est symboliquement fort que dans une commune comme la nôtre, et que dans les communes viticoles, on puisse quand même réaffirmer qu'on n'a pas qu'un producteur de vin n'est pas un délinquant, qu'un consommateur de vin n'est pas un délinquant, qu'on sait apprécier le vin modérément, sans pour autant rouler bourré, hein, c'est pas dans nos habitudes, mais voilà, qu'on laisse les gens tranquillement déguster un verre de vin entre amis. Il y aura bientôt la Saint-Valentin, partager un bon verre de vin avec sa compagne ou son compagnon, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et ça fait partie des bons moments de la vie. Donc foutons la paix aux Français, en l'occurrence, que les Anglo-Saxons gardent ce genre d'initiative, mais qui nous laisse vivre comme on entend vivre et comme on vit depuis toujours. Et encore une fois, c'est pas une action qui vise à encourager la consommation effrénée d'alcool. Au contraire, moi, je pense qu'il faut être raisonnable en la matière, mais quand on a envie de partager un verre de vin ou de champagne, le champagne étant un vin, allons-y, ça fait pas de mal et ça participe au bon moment de la vie. Madame Perrin.
Il a été prouvé sur les études faites en Angleterre que c'était surtout la population des jeunes qui était visée et leur pratique.
Alors, qui n'ont rien. Voilà.
Et leur pratique de fête qui allait vers l'ivresse la plus rapide et la plus. Voilà.
C'est exactement le sujet qu'on a eu avec le président de la République. C'est ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire qu'on prend une dose. Généralement, c'est des alcools forts du style vodka, du style gin et autres, qu'on consomme dans un temps très court. Ce qui semblerait que ça procure des sensations d'ivresse très rapides. Et c'est des doses, on se shoote en quelque sorte à l'alcool dur. Je n'ai pas le sentiment qu'on le fasse beaucoup au champagne ou au vin français de qualité. C'est plutôt des alcools que des vins.
Après, faut faire la différence entre la communication par rapport à des populations qui sont déviantes et le fait qu'ici, on produise du vin. Je pense pas que la communication de ce genre de journée soit faite pour les adultes qui consomment de manière traditionnelle le verre de vin au repas ou le verre de champagne quand on fait la fête. Ça s'adresse quand même à une population assez spécifique. Et en Angleterre, ils ont vu que ça avait un impact essentiellement sur les jeunes. Moi, personnellement, ce type de démarche, je ne la trouve pas antagoniste avec ce qu'on produit ici localement.
Bon, en tout cas, moi, j'ai souhaité symboliquement qu'ici à Épernay, on puisse voter un vœu comme celui-ci, parce qu'encore une fois, on est quand même à la veille de l'apéro de la Halle. Je vous invite demain soir à l'apéro de la Halle qui est avancé, qui est une très belle manifestation, sur laquelle on constate qu'il n'y a aucun excès, il n'y a aucun abus. C'est demain soir, oui. Vendredi soir, je pensais qu'on était jeudi. Non, c'est cette semaine, d'habitude, c'est le dernier vendredi du mois. C'est avancé d'une semaine. Pardon, c'est moi qui me suis... Je suis pressé d'être en vacances, c'est pour ça. On est quel jour, d'ailleurs? On est lundi, ah oui, c'est vendredi. Moi, je me croyais jeudi. T'es tellement pressé d'être vendredi.
C'est vrai que maintenant, avec les ouvertures de magasins du dimanche, on ne sait plus quel jour on est.
Pardon?
Avec les ouvertures des magasins du dimanche, on ne sait plus quel jour on est.
Oui. Bon, vous aurez corrigé de vous-même. Monsieur Angers.
Oui, je vais vous faire une confidence. Si je devais arrêter, de manière volontaire, de boire pendant un mois, je préférerais que ce soit février, parce qu'il n'y a que 28 jours.
Je pense que vous ferez consensus sur le coup. Bien, donc je vous propose le vote de ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Le rapport est adopté. Je vous remercie. Je crois qu'on en a fini. Hein. Je voulais simplement, d'un mot à la fin de ce conseil, remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour que l'édition du 20e anniversaire des Habits de Lumière soit un gros succès. Je voudrais remercier notamment Séverine Adam, qui doit être dans la salle là-bas derrière, avec toute son équipe. Toute son équipe n'est pas là, mais elle transmettra nos félicitations, parce que c'était franchement une très grande réussite. On a eu beaucoup de chance avec le temps, parce qu'on est vraiment passé entre les gouttes. Il pleuvait toutes les nuits, mais les soirées étaient à peu près sèches. Et en tout cas, on a eu de très nombreux visiteurs. Et je pense que le record a été battu pour la soirée du samedi, qui était une vraie soirée de folie. L'ambiance qu'il y avait dans l'avenue, c'était du jamais vu. Et je pense qu'on a fait, honneur à l'image du Champagne, à l'image du patrimoine de la ville d'Épernay. Je pense que tous les gens qui étaient ont pris beaucoup de plaisir. Et j'espère qu'il en sera de même au cours des prochaines années.
On aurait dû voter le vœu un verre à la main.
Ouais. Oh, mais remarquez, mais le problème, c'est qu'on a un verre d'eau, là. Ah oui. On a encore un point à l'ordre du jour. C'est le travail qui a été fait par la commission.
C'est vrai qu'on fait un petit point d'étape parce qu'on avait, on devait se donner rendez-vous à la fin d'année pour un travail sur les dépôts sauvages et la lutte contre les mégots. Ça avait été donné par le conseil municipal, par le maire à la commission cadre de vie. Donc nous sommes réunis plusieurs fois. Le travail n'est pas encore terminé puisqu'il y a encore des ajustements ou des concrétisations à porter. Mais on a travaillé sur l'existant, sur la réglementation, qu'est-ce qui nous est permis de faire ou pas. Et ensuite, sur les solutions à trouver. Alors, on est arrivé à un constat qu'il fallait évidemment continuer à faire des actions de prévention, qu'elles soient classiques, mais qu'elles soient aussi des actions de prévention fortes, avec du buzz, pour interpeller en tout cas les gens sur des idées de pas balancer tous ces trucs dans la nature, d'être propre. Donc, il y a des actions de prévention à rappeler, mais on est quand même assez au courant qu'il faut être respectueux de son environnement. Donc on a aussi parlé des sanctions qui peuvent être apportées dans cette lutte contre les incivilités, contre les déchets sauvages, et que ce soit en ville ou dans le milieu naturel. Donc on a quelques propositions qui sont formulées. Il faudrait qu'on se revoie pour donner peut-être les actes prioritaires. Et puis pour toute information, j'ai aussi, c'était pas lié à ce travail-là puisqu'elle n'était pas au courant, j'accueille une service civique dans le service de développement durable et elle a commencé à travailler sur la semaine du développement durable et elle veut proposer un concours photo sur cette thématique-là, donc une photo un peu choc pour... alors c'est une thématique qu'on n'avait pas évoquée dans notre commission, mais je pense qu'on pourra l'intégrer puisque c'est l'idée d'une jeune fille qui a envie de lutter contre les déchets sauvages. Donc voilà, on a fait le travail, monsieur le maire, et on a une copie à vous rendre d'ici, j'espère, un mois. On va essayer de se réunir courant janvier pour vous donner des actions à travailler. Et a été déjà évoqué en agglomération la brigade, je ne sais pas qu'on l'appelle, la brigade verte ou un garde champêtre renouvelé pour lutter contre les incivilités en milieu naturel. Et bien, cette question est revenue notamment par les membres de la commission qui sont assez variés puisqu'il y a les élus de la majorité de l'opposition, mais également des agents, des techniciens de nos services municipaux.
Oui, j'ajoute qu'on a saisi le procureur de la République lors du dernier conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, parce qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles, des pollutions qui sont générées par des gens qui sont totalement inconscients ou par le déversement de produits dangereux ou polluants ou par des comportements sur lesquels je ne m'étendrai pas parce que je veux pas que l'affaire soit pour l'instant ébruitée, mais qui consiste à dissimuler des matériaux polluants dans des espaces naturels, ce qui est absolument scandaleux. Et on fera en sorte que des poursuites pénales soient engagées parce que ce genre de situation ne peut pas durer, devient malheureusement monnaie courante. Et quand je discute avec l'ensemble des maires de l'agglomération, les dépôts sauvages ont tendance à se multiplier, notamment en bordure de forêt ou dans les fossés. Alors parfois, on arrive à identifier les auteurs, parfois non. Je pense que tous les élus, et j'étais en Argonne il y a encore 3 semaines sur le sujet est revenu également. Je ne sais pas ce qui explique cette situation. Probablement qu'il est plus compliqué aujourd'hui d'évacuer les plastiques que ça se faisait autrefois ou se retrouver dans les pays du tiers-monde. Résultat, il y a plus d'exigences dans les contrôles qui sont réalisés. Et du coup, maintenant, le sport national, c'est à la nuit tombée de charger sa voiture et d'aller balancer ça dans la nature. Et je pense qu'il faut, réprimer cette attitude. Il faut évidemment éduquer, notamment les plus jeunes, parce qu'on voit des gamins qui balancent facilement les papiers par terre. Mais ça, c'est pas dramatique. C'est un travail d'éducation à faire. Par contre, les gens qui mettent sciemment des ordures ou des dépôts dans leur voiture pour aller... à un endroit où on ne les voit pas pour se débarrasser de ça, alors que les déchetteries, encore une fois, font leur office et sont là pour ça, alors que nous avons à Voipreux une déchetterie qui est ouverte aux professionnels, c'est des choses qui ne sont pas admissibles parce qu'à terme, ça peut avoir des conséquences gravissimes à certains endroits. Monsieur Angers ?
Moi, je pense qu'il faut aussi rappeler aux services de l'État, on l'avait fait l'autre jour sur ces questions-là, lors du conseil municipal extraordinaire. Moi, je prends un exemple. On a trois situations que j'ai notées à proximité de notre territoire. C'est celle des voitures qui sont laissées à l'abandon dans un fossé sur le bord d'une route. Et alors, il y en a encore une. Je ne sais pas si elle y est encore. Elle y était il y a une quinzaine de jours sur Brugny, en montant à Brugny. On en a eu une l'année dernière entre Reims et Pernay. Il doit y en avoir une entre Saint-Martin et Orbé-l'Abbaye. Et à chaque fois, on se heurte à une difficulté. Ah bah oui, mais la voiture ne peut pas être enlevée parce qu'on n'a pas... on n'a plus la personne qui a immatriculé la voiture, etc. Moi, je pense qu'il faut forcer l'État sur ces sujets-là. Peut-être qu'à un moment, des collectivités, peut-être l'agglomération, est en droit de le faire, de forcer le pour qu'on aille à l'enlèvement de ça, et puis après mettre en œuvre, je dirais, la récupération des crédits engagés auprès des fautifs. Mais je pense qu'on peut pas laisser à proximité de notre territoire, presque en entrée de ville à chaque fois, des situations aussi pénalisantes que celle-ci.
J'ai photographié celle de Brugny l'autre jour, celle de... de Saint-Martin-d'Ablois, elle est en allant vers Mareuil-en-Brie, elle est sur la gauche, et effectivement, au début, c'est une voiture qui a les pneus crevés, puis ensuite, elle est incendiée, puis ensuite, ça devient une épave, et ça se produit toujours de la même manière. Alors, j'ai saisi le préfet lors de l'Assemblée des maires, parce que la question avait été soulevée à plusieurs reprises. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique, simplement, le problème, c'est que c'est la commune qui va devoir financer le retrait du véhicule et sa mise en décharge ou en... et que les communes se disent jamais on sera remboursé. Alors j'ai tendance à penser qu'effectivement on doit pouvoir identifier le propriétaire du véhicule, que même si c'est un véhicule volé, il y a des assurances qui fonctionnent dans ce cas-là, et dans ce cas-là ce sera l'assurance qui devra payer l'enlèvement de la voiture, à mon sens. Mais c'est vrai que beaucoup de petites communes rurales se disent cette voiture elle est là, mais on n'y est pour rien, on ne va quand même pas payer pour la retirer. Résultat, ça demeure pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Celle de située sur le plateau, elle est restée au moins 9 mois. En plus, c'est un danger parce qu'elle est au bord de la circulation. Quelqu'un pourrait la percuter. Et non, on m'a dit que non. Pourquoi ? Pour la retirer ? Non. J'ai demandé au service de l'État et au procureur qui m'ont dit une commune au titre de la sécurité publique, puisque un véhicule présente un danger s'il est à proximité d'un endroit où le stationnement n'est pas autorisé, peut faire retirer le véhicule et le mettre en fourrière. Le problème, c'est que c'est la commune qui risque de devoir payer cette charge. Le remorquage, c'est même pas un remorquage, une pince qui vient la chercher, et que ça va entraîner des coûts, et la commune risque de l'avoir pour elle. C'est ce qui freine aujourd'hui, semble-t-il, le fait que les élus laissent ces voitures, parce qu'ils se disent, nous, on n'y est pour rien, il n'y a pas de raison qu'on vienne s'occuper de ça. Madame Perrin ?
Oui, moi, je voudrais aussi vous attirer votre attention sur un phénomène qui est que les gens ne prennent plus la peine de balayer les feuilles mortes devant chez eux, ou de déneiger leur bout de trottoir quand il y a de la neige ou du verglas. Et c'est différent, mais ça rejoint un civisme aussi. Peut-être faire un rappel à la loi.
Alors, je pense que sur ce sujet-là, il y a des gens qui ne le savent pas forcément, mais il faut leur rappeler gentiment. Mais effectivement, c'est une forme de manque de civisme. Alors, quand il y a des fortes chutes de neige, moi, j'ai pu y assister. Il y a une certaine solidarité entre voisins, notamment quand on sait qu'on a une personne âgée qui habite à proximité. On va lui faire son trottoir. Mais c'est vrai que pour les gestes de la vie quotidienne, les gens n'y pensent pas. Et vous avez des gens qui scrupuleusement nettoient leur trottoir, mais ceux d'à côté ne le font pas. Je pense qu'il y a un travail à faire sur le civisme en la matière. Et faire quelques rappels, faire de l'éducation. À mon avis, travailler l'éducation des enfants le plus tôt possible en la matière. On l'a vu sur les déchets, par exemple, où les enfants ont complètement adhéré au système du tri. Il faut dire que c'était avec les poubelles de couleur, il y avait un petit côté ludique, mais ça a marché. Donc à nous, peut-être, de trouver des formules pour expliquer sous forme de jeu quel comportement on doit avoir dans la ville, encore que les enfants n'étant pas les plus coupables en la matière quand on compare au comportement des adultes. Mais on a eu, par exemple, je l'ai déjà cité, je crois, l'autre jour, un monsieur qui a été filmé par nos caméras et qui a été évidemment verbalisé.
mais qui est sorti de chez lui avec un frigo dont il voulait se débarrasser. Il l'a mis dans sa voiture. On s'est dit, il va aller à la déchetterie. Il est allé le porter à côté de la benne à verre, à l'autre bout du quartier, se disant, les employés municipaux, ils vont l'emmener à la déchetterie. Donc évidemment, alors que le frigo tenait dans sa voiture, il lui restait 2 kilomètres à faire pour aller à la déchetterie, il a préféré aller le déposer à côté de la benne à verre en disant, c'est les employés municipaux qui vont le faire.
Fait encore des collectes de monstres par quartier.
Il faudrait peut-être en faire. Le problème, c'est qu'on ne peut plus laisser de monstres seuls, parce que si on les laisse, on retrouve toute une série des pneus, des choses comme ça, qu'on ne sait pas ensuite mettre en déchetterie, parce qu'on doit pas, on n'a pas le droit de les collecter. Mais donc, il faudrait en fait.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, faire des annonces que.
Oui, en laissant un agent à proximité pour qu'on contrôle ce que les gens viennent mettre dedans. Parce que sinon, ils vont nous mettre des matières polluantes, ils vont nous mettre des pneus dont on ne sait pas se débarrasser après parce qu'on n'a pas de filière à notre niveau. Il n'y a que les garagistes qui ont des filières de reprise de pneus. Mais il faudrait probablement le faire une fois de temps en temps, notamment au printemps, quand les gens, au sortir de l'hiver, prennent de bonnes dispositions. Ça fait partie de la batterie des actions qu'il faudra sûrement mettre.
Parce qu'à la limite, on pourrait même travailler avec la ressourcerie, parce qu'elle pourrait dire, ça, moi, ça m'intéresse.
Alors,
ça,
on travaille déjà avec la ressourcerie.
Non, par rapport aux monstres dans un quartier.
Non, mais la ressourcerie se déplace à la demande.
Oui.
Mais par contre, si on refait une collecte de monstres, ça veut dire qu'on a des volumes considérables qui ne sont pas triés.
Oui.
Et cette fois, on est pénalisé, parce que ça part en incinération. Et ça coûtait très cher.
Ouais, c'est tout le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre un matelas, vont mettre
à côté de l'huile.
Et comme tout ça baigne dans la même benne, il faudrait en fait amener quasiment une déchetterie au domicile des gens. Mais c'est vrai qu'on développe de plus en plus.
Comme ça a été le cas à rue d'électricité pendant quelques années, quand il y avait une benne à monstres, en une heure de temps, elle était pleine par des déchets de couvreurs, un couvreur dans le quartier, qui stockait chez lui. Et dès que la benne était là, il venait, les gars mettaient ça dans la benne. En une heure de temps, la benne était pleine de déchets professionnels.
Donc on y reviendra sans doute au conseil du mois de...
Dire toutes ces questions que vous évoquez, partenariat avec la ressourcerie, ou une ressourcerie, ou création d'une ressourcerie, déchetterie mobile, toutes ces questions-là, on les a évoquées. Et maintenant, c'est vrai que c'était de travailler, parce que c'était une commission municipale, avec des agents municipaux, et il y a une partie qu'il faudra qu'on travaille avec l'agglomération sur la compétence déchets, parce qu'on ne va pas réinventer un système alors que les déchets ont déjà fait un plan d'action cap de déchets 2030, zéro déchet 2030. On va déjà prendre ce qui est déjà évoqué par l'aglo sur les déchets et puis se mettre en adéquation. Mais c'est vrai qu'il existe beaucoup de systèmes déjà existants. Quand on achète un frigo, un électroménager ou un meuble, l'ancien doit être repris par celui qui nous a vendu. C'est une obligation. Il n'a pas à nous facturer un enlèvement non plus. Ça arrive encore qu'il facture.
Oui, mais Jonathan, quand tu te fais livrer par Internet...
Ils doivent reprendre quand même. C'est obligatoire.
Il refuse les 3/4 du temps.
C'est la loi, mais bien sûr,
il suffit de caser la bonne case.
Ils feront tout pour te convaincre de ne pas le faire, c'est évident. Mais ils sont sanctionnables. C'est pénalement... en tout cas, civilement, à mon avis.
On aura l'occasion de redébattre sur le sujet.
Juste une dernière intervention. Je vous engage à lire... le document qui a été voté à l'unanimité par le Conseil communautaire et qui est justement l'objectif et les préconisations par rapport à l'objectif zéro déchet 2030. Mais je vous invite à le lire. C'est long, mais c'est intéressant et vous aurez des idées.